Bonjour, chers collègues, chers amis, responsables et fonctionnaires du Portugal. Merci d'être tous venus ici jusqu'à Lisbonne. Lisbonne, je vous dirai un secret, c'est un des derniers amours de ma vie. Et lorsque j'ai entendu dire que Luis nous avait organisé notre venue à Lisbonne, j'étais enchantée de revenir dans cette ville qui est merveilleuse. Et également ici dans ce Parlement qui est un ancien couvent. Je remercie également les représentants du Parlement européen, du Parlement portugais, pardon, qui nous accueillent dans leur ville. C'est un honneur tout particulier que d'être ici aujourd'hui. Merci encore. Une bonne nouvelle, mes chers collègues. Nous avons encore Rome. Donc, je n'ai pas à interrompre la séance et à la rouvrir. Donc, nous pouvons également modifier notre ordre du jour s'il en est besoin. Pouvons-nous adopter l'ordre du jour révisé qui se trouve dans vos dossiers? Oui, c'est le cas. Je déclare donc qu'il est adopté. Monsieur Eduardo Ferro Rodrigues, président de l'Assemblée de la République portugaise, et Madame Ada Catarina Mendes, présidente de la délégation portugaise à notre Assemblée. Merci encore une fois. Merci de nous accueillir. Et Monsieur le Président Rodrigues, je vous demanderai de bien vouloir vous adresser à notre commission. Vous êtes le maître dans cette maison, donc faites comme bon vous semble. Monsieur le secrétaire d'État des collectivités territoriales, Monsieur Miguel, Monsieur le Président de la Commission des questions sociales, Monsieur Stéphane Ternan, Madame la Présidente de la délégation portugaise à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, Madame Mendes, Monsieur le Vice-président, Monsieur Luis Ramos, Monsieur le Secrétaire général du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l'Europe, Monsieur Andreas Kiefer, Madame l'ancienne Présidente de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, Madame Stella Kyriakis, Mesdames et Messieurs. Soyez les bienvenus en ce Parlement portugais, à l'Assemblée de la République. Je suis très heureux et l'Assemblée de la République est très heureuse de recevoir la Commission des questions sociales, de la santé et du développement durable de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. Et je suis très heureux également de voir ma collègue et mon amie, Madame Ana Catarina Mendes, qui joue maintenant le rôle qui fut le mien il y a de cela 13 ans. L'acquis normatif du Conseil de l'Europe est aujourd'hui partie intégrante de l'activité de nos institutions et de la vie de nos citoyens. L'adhésion du Portugal en 1976 a été la première étape de la consolidation du processus démocratique qui s'est ouvert en 1974 lors de la révolution des œillets après 48 ans de dictature au Portugal. Le Portugal, et en particulier l'Assemblée de la République, célèbre en cette année 2018 les 70 ans de la Déclaration universelle des droits de l'homme et les 40 ans de cette adhésion à la Convention européenne des droits de l'homme. Il y a 40 ans, le ministre de l'époque, M. Mendes Ferreira, et le Premier ministre, Mário Soares, ont fait entrer la jeune démocratie portugaise dans la communauté européenne des nations qui sont en quête de liberté et de justice. 40 ans plus tard, nous pouvons dire que cet acquis normatif du Conseil de l'Europe fait aujourd'hui partie intégrante de nos institutions et de la vie de nos citoyens. 4 décennies se sont écoulées après cette étape qui fut une véritable transformation. Le Conseil de l'Europe jouit d'une très grande estime au Portugal et Lisbonne s'enorgueillit d'être le siège du centre nord-sud dont la contribution au dialogue interculturel et à la citoyenneté démocratique mérite toujours d'être rappelée. Et le Conseil de l'Europe apporte une plus-value très particulière. Ces 3 piliers sont la base sur laquelle s'appuie la façon d'être de ses membres. Et ce sont également des défis. Car il souhaite réaliser une union plus étroite entre ses membres, afin de sauvegarder et de promouvoir les idéaux et les principes qui sont leur patrimoine commun et de faciliter leur progrès économique et social. Nous vivons des temps bien différents de ceux que connaissait l'Europe lorsque fut célébrée la Déclaration universelle signée à Paris il y a 70 ans et plus tard lors de la Convention européenne des droits de l'homme. Beaucoup de choses ont changé au niveau politique, culturel, scientifique et au sein de la société. Sans perdre le cap qui est dessiné par nos valeurs et nos principes, les nouveaux défis, les nouveaux enjeux exigent de nous que nous dessinions des trajectoires et nous concevions des réponses fidèle à la raison d'être de l'organisation et qui soit favorable à la promotion de la paix et du développement humain. La paix et le développement international suivent le même chemin. C'est celui du droit international, du multilatéralisme, de la promotion des droits humains et de la démocratie. Votre ordre du jour démontre que le Conseil de l'Europe conserve l'ambition de ses pères fondateurs. Bien des thèmes qui nous rassemblent aujourd'hui à Lisbonne ont été intensément débattus dans notre Assemblée de la République. La décentralisation, la procréation assistée, le développement du réel, l'énergie et l'environnement. Ce sont des thèmes qui sont transversaux et qui dépassent les limites d'une conjoncture et ont des retombées profondes sur nos sociétés. Ce sont des thèmes où la pluralité des positions reflète la pluralité qui est le propre de la vie démocratique. Pour ma part et pour ce qui est de l'Assemblée de la République, je formule des vœux pour que cette séance qui se tient à Lisbonne soit productive et pour que votre débat se traduise par des orientations et des recommandations qui nous aident à rendre meilleures, plus justes, plus libres et plus inclusives nos sociétés en ce moment où cela est si important pour l'Europe. Merci.
Dear speaker. Cher Président de l'Assemblée de la République portugaise, merci pour ces propos, car vous avez vraiment su mettre le doigt sur l'essentiel, ce dont on a besoin en Europe et ce qu'il faut aussi dire haut et fort. Merci. J'étais très impressionnée de vous écouter. Maintenant, je voudrais demander à Ana Mendes de bien vouloir prendre la parole. Le micro ne semble pas fonctionner.
Micro, s'il vous plaît, micro. Merci, Monsieur le Président. Bonjour à tous. Je vous remercie à tous. J'aimerais commencer cette séance par saluer l'initiative de la Commission des Affaires Sociales, Santé et Développement Durable de tenir séance ici au sein du Parlement portugais et remercier bien sûr le député Elect Ramos qui fait un travail sensationnel au sein de cette commission et de la PCE. Même si nous n'appartenons pas au même parti politique et ne partageons pas forcément sur beaucoup de thèmes la même vision la société. Nous sommes unis autour de questions qui sont essentielles pour le Conseil de l'Europe et que nous défendons toujours dans une optique de démocratie et de droits de l'homme. En tant que présidente de la délégation portugaise à la PCE, j'aimerais souhaiter à tous les collègues la bienvenue et je souhaite vraiment que la réflexion qui se tiendra au cours de ces deux journées et qui compte sur tant d'experts et de membres du gouvernement qui s'associent à cette réunion permette une réflexion approfondie, un débat et permette également un débat à l'avenir. Comme l'a dit le président du Parlement portugais à l'instant, nous vivons une époque de changement rapide dans le monde et en Europe. Dans beaucoup d'États du Conseil de l'Europe, l'individualisme, le nationalisme et l'égoïsme ont tendance à prendre le dessus par rapport à la solidarité et aux droits de l'homme. Notre rôle en tant que parlementaire de la PCE du Conseil de l'Europe, c'est justement d'agir pour que ce projet commun de stabilité politique, de paix, d'amélioration des conditions de vie de nos citoyens, justice sociale et du renforcement de la démocratie se maintiennent vivants et puissent prendre de l'essor. Nous ne devons pas perdre de force face à la crainte. Nous devons également miser sur des valeurs pour que la démocratie soit de plus en plus forte. C'est sur cette base-là, chers amis, que s'encadre l'ordre du jour de notre commission. Ce sont des thèmes qui ont la plus haute importance politique, que ce soit le rôle des parlements nationaux ou au niveau du processus de décentralisation. D'ailleurs, le 1er septembre, nous avons fêté les 30 ans de l'entrée en vigueur de la Charte européenne de l'autonomie locale. Et au cours de cette séance, nous comptons également sur le président des pouvoirs locaux et régionaux. Le Portugal, lui aussi, estime que la décentralisation des pouvoirs locaux est essentielle pour être plus proche de nos citoyens, mais également pour renforcer la démocratie et la participation de nos citoyens face au pouvoir et aux institutions du pouvoir. C'est pourquoi il s'agit d'une réforme qui, pour nous, est essentielle. D'ailleurs, nous avons l'habitude de dire que l'impact de la décentralisation sur la gestion des ressources existantes est essentiel pour le pouvoir local. 1 euro investi au niveau local correspond à 3 euros au niveau central. Donc, il faut regarder la décentralisation également sous l'optique de la rationalisation des ressources disponibles. Et c'est pourquoi nous misons sur cette question au cours de notre législature. Maintenant, sachant qu'il s'agit d'une question essentielle qui sera débattue au cours de cette réunion, nous ne pouvons pas non plus oublier l'importance des parlements nationaux quant aux objectifs du développement durable des Nations Unies. Et là, nous avons encore beaucoup de chemin à faire pour y parvenir. C'est pourquoi j'aimerais mettre en évidence, puisque c'est quelque chose qui est également inscrit à l'ordre du jour, les questions qui ont trait à la santé des adolescents en Europe. Une petite note pour vous dire que le Portugal est l'un des 5 pays où il y a le plus de personnes, d'enfants et jeunes obèses au cours de l'adolescence. Ceci posera de graves problèmes à l'avenir. C'est pour ça qu'il faut agir aujourd'hui, au présent, pour qu'à l'avenir, nous arrivions à de meilleurs résultats au niveau de la santé publique et surtout la santé des enfants au cours des années à venir, mais aussi assurer la lutte contre la pauvreté, assurer une éducation inclusive et une formation au long de la vie, une formation continue. Ce sont également des thèmes inscrits à votre ordre du jour. Avoir également une sécurité et une protection, c'est un débat essentiel du jour, des jours d'aujourd'hui. Nous ne pouvons pas oublier les impacts des accidents nucléaires qui ont des conséquences transnationales. Fukushima 2011 ou Tchernobyl en 1986 ne doivent pas être oubliés. Nous ne devons pas seulement regarder les menaces des États-Unis ou de la Corée du Nord comme des menaces à la sécurité de l'Europe. L'Europe, elle aussi, doit avoir un mot plus fort et une action plus véhémente. Dans le domaine du travail de l'environnement, les nouveaux défis à relever face au changement de paradigme du monde du travail, l'évolution technologique en cours qui entraînera certainement la disparition de beaucoup de métiers tels que nous les connaissons aujourd'hui, mais y amènera également à la naissance de nouveaux métiers que nous ne connaissons pas non plus aujourd'hui. C'est pourquoi il faut avoir un mot pour que les personnes qui se trouveront entre les deux puissent s'adapter à de nouveaux métiers ou encore aider ceux qui ne seront pas à même de se reconvertir, mais ne pas regarder la société numérique comme une fatalité, mais comme une opportunité de miser sur notre formation et donc relever le défi de la préparation de la société. Et ceci est fondamental face à des métiers inconnus et non existants. Et ceci passe également par le travail du Conseil de l'Europe et de cette commission. Chers collègues, permettez-moi de terminer en vous disant que l'Europe a besoin d'une politique commune qui assure notre sécurité, sans non plus oublier ici les thèmes de la procréation médicalement assistée qui nous convoque à une réflexion sur les équilibres qui doivent être trouvés entre les droits des parents, ceux des donateurs et des enfants. Ceci est également un thème central aujourd'hui dans la société portugaise. Des thèmes qui sont si importants qui, je le répète, compteront sur la contribution de différents spécialistes en la matière portugais et des membres du gouvernement. Et ceci amènera certainement une discussion profitable au cours de ces deux journées. Je vous souhaite donc un bon travail pour la construction d'une société plus juste dans le droit fil et le respect des valeurs fondamentales du Conseil de l'Europe. Je vous remercie.
Mrs. Mendes, thank you also for...
Merci à Madame Mendes de vos propos et du lien que vous avez su établir avec les questions de l'environnement à l'époque du réchauffement climatique qui décidera finalement de notre avenir, l'avenir de l'Europe et l'avenir du monde. Et dans la sous-commission tout à l'heure, j'ai remercié Luis Leitramos et maintenant, j'aimerais encore une fois le remercier. Il est vice-président de cette commission et c'est quelqu'un d'extraordinaire. Nous ne sommes pas dans le même groupe politique, nous non plus, mais cela n'empêche pas que l'on puisse faire de preuve de respect les uns envers les autres et respecter également le travail qui est accompli par autrui. Et c'est d'ailleurs la voie que nous suivons. Le chemin que nous parcourons. Je vous remercie, Louis, d'être vice-président de cette commission et de toutes les initiatives que vous savez prendre à bon escient. Maintenant, j'aimerais vous informer au nom de la délégation portugaise que le maire de la ville de Cascais, Monsieur Carlos Carreiras, nous a invités ce soir à un dîner officiel. Et Cascais est un endroit extraordinaire. Et à Cascais, autrefois, on recevait des rois et je crois qu'en même temps, il y avait 7 ou 9 rois qui vivaient en exil. Ils venaient de différents coins d'Europe. C'est quelque chose de tout à fait intéressant et vous verrez que Cascais est un endroit tout à fait hors du commun. Donc, les bus partiront d'ici. Donc, nous irons directement d'ici au dîner et on vous ramènera à l'hôtel et on ne perdra personne en route. Donc, merci beaucoup de cette séance d'ouverture et de ces allocutions.
Wir bleiben dort einfach sitzen. Now I come to topic 3, the mini.
J'en viens au point 3 de notre ordre du jour, le compte rendu de notre dernière réunion. Mais avant d'en venir à ce compte rendu, nous avons une demande d'observateurs pour participer à notre réunion lors de l'analyse des points 7 et 8 de notre ordre du jour. C'est Monsieur Pedro Ramos Achenson de la Fédération des associations de familles catholiques en Europe. Étant donné que le point 7 sur l'ordre du jour est une audience publique, je propose qu'on le reçoive. Mais lorsque nous débattrons du rapport sur les soins palliatifs, le point 8, je n'accepterai pas cette requête. Donc, pour le point 8, pouvons-nous en décider de la sorte? Je vous propose donc d'accueillir Monsieur José Pedro Ramos Achenson de la Fédération des associations de familles catholiques en Europe participe au débat sur le point 7 et non pas sur le point 8. Pouvons-nous en convenir? Oui. Pouvons-nous également adopter le procès-verbal de notre dernière réunion qui s'est tenue en juin à Strasbourg? C'est le cas. Mes chers collègues, nous devons modifier notre ordre du jour. Eleni n'a que peu de temps et nous ne voudrions pas qu'elle qu'elle manque son avion. Et donc, je vous proposerai que nous commencions avec le point 5, c'est-à-dire traiter la question de la santé des adolescents en Europe d'abord, de telle sorte que Eleni puisse prendre l'avion qui la ramènera chez elle. Sommes-nous d'accord? Si c'est le cas, je donne immédiatement la parole à la baronne Messé. Bonjour. Donc, vous voulez que je prenne la parole, Président? Merci, merci beaucoup. Quatre diapos devraient être projetés. J'aimerais qu'on puisse les voir. Ce thème, les besoins de santé des adolescents, est un thème extrêmement vaste et il pourrait être le thème de 10 livres, mais nous n'avons qu'un rapport ici. Ce rapport cherche à donner un aperçu, un cliché de ce que sont les adolescents, des problèmes qui sont les leurs, ainsi que des bonnes pratiques lorsque l'on cherche à résoudre ces problématiques. La première chose que nous allons faire, c'est définir l'adolescence entre 10 et 18 ans et nous allons regarder les adolescents non pas comme un problème, nous ne voulons pas en faire des êtres démoniaques, nous voulons que ce soit des membres productifs de notre société, nous voulons qu'ils aient une santé active au cours de leur adolescence qui se poursuive au cours de leur âge adulte. Donc, nous voulons des adolescents en bonne santé et productifs. Deuxièmement, Nous voulons adopter une approche tout au long de la vie, c'est-à-dire que chaque étape de la vie a ses propres problèmes, c'est le cas des adolescents, mais il convient de les relier de façon fluide. Et cette approche tout au long de la vie a donc pour but de solliciter la participation des groupes à chaque étape de la vie pour travailler à la résolution de leurs problèmes. Et j'aimerais également que l'on s'attache à analyser la coordination des services, quels qu'ils soient, la santé, l'éducation, etc., pour apporter un meilleur service, en l'occurrence aux adolescents. Nous allons également parler du développement du cerveau. Le cerveau se développe énormément au cours de l'adolescence et nous voudrions savoir comment les activités des adolescents, par exemple les comportements à risque, sont susceptibles de modifier le cerveau. Donc un premier cliché, un premier survol et à partir duquel nous essaierons de vous proposer des solutions. Donc les diapositives n'arrivent pas, donc je crois que Lenny essaye de résoudre la situation, donc je poursuivrai mon exposé. Il y a énormément d'influences qui s'exercent sur l'adolescence et elles sont très fortes, notamment la pauvreté, la famille, les amis, la sexualité, le genre. Donc nous devons tenir compte ces influences, des influences qui touchent la personne. Il y a quatre principes dans notre rapport. L'adolescence, c'est une étape clé de la vie, c'est une étape où il convient d'investir et l'on s'aperçoit que l'adolescence fait preuve d'une recherche insuffisante. Il y a beaucoup de recherches sur l'enfance, la petite enfance et sur l'âge adulte, mais pas suffisamment sur l'adolescence. Et les adolescents devraient pouvoir participer à la conception de stratégies qui les concernent. Je pense également que des recommandations internationales, il y en a plusieurs de l'OMS, de l'UNICEF, du Conseil de l'Europe, ces recommandations sont très utiles, mais elles doivent être mises en œuvre au niveau national et local afin qu'elles soient véritablement efficaces et que l'on puisse en mesurer les retombées. Et mon autre diapositive qui n'est toujours pas là. Alors, je ne répéterai pas ce qu'il y a là. Les domaines que nous avons analysés le plus en profondeur sont trois questions qui sont très importantes pour l'adolescence maintenant et à l'avenir et partout dans le monde. La première, c'est la santé mentale. Ensuite, la santé sexuelle. Et la troisième est l'obésité. Et je crois avoir compris que notre collègue a dit tout à l'heure que le nombre de gens obèses au Portugal était extrêmement élevé. Et il faut également s'interroger sur l'efficacité des interventions. Donc, savoir quel est le problème, quel est le coût de la résolution de cette problématique et comment dépenser cet argent. Donc, la rentabilité est toujours plus importante. Il faut s'assurer que nos interventions portent leurs fruits. Si vous avez, mes chers collègues, des exemples, des bons exemples de bonnes pratiques dans les domaines que je viens de mentionner, je vous saurais gré de me le dire et nous les inclurons dans le rapport. Nous avons des annexes à ce rapport. L'une porte sur la participation des parents, l'autre sur la participation des jeunes gens, l'autre sur les politiques dans différents pays. J'irai en Suède en septembre pour voir de plus près quelles sont les politiques qui sont efficaces pour les adolescents. Et je me tourne vers Eleni et je lui donne la parole. Le président, Une minute, s'il vous plaît. Y a-t-il des questions? Y a-t-il des questions pour Doreen? Si ce n'est pas le cas, maintenant, moi, Eleni, je vous donne la parole. Ah non, il y a une question. Merci, Monsieur le Président. J'ai lu votre rapport et il a retenu toute mon attention. Il y a juste, il me semble qu'il y a toutefois une lacune. C'est la question des drogues, les drogues illicites, certes, mais aussi les drogues que l'on peut acheter sur Internet. Et c'est une question qui ne figure pas dans le rapport et j'aimerais savoir pourquoi. Il y a beaucoup de questions qui ne figurent pas dans ce rapport. Je vous l'ai dit, c'est un cliché, un survol. Mais la question de la consommation de drogue, de la tabagie, de l'alcool, de la prise de risque, font partie des questions relevant de la santé mentale. Le fait de prendre des risques, de consommer de l'alcool, de consommer de la drogue, en font partie car ou surviennent car il y a un besoin qui relève de la santé mentale et qui n'est pas seulement une question liée à la dépendance ou à l'addiction. Merci. Maintenant, j'aimerais vous présenter Eleni, qui est une psychologue clinique. Elle vient du département de psychologie de l'Université de Chypre. C'est bien le cas. Elle nous a donné un mémorandum qui porte sur les besoins des adolescents en Europe, qui vous a été envoyé par courriel, mais je pense que vous l'avez dans vos dossiers, vous pourrez donc le lire. Et maintenant, je donne la parole à Eleni. Merci. J'aimerais remercier le Conseil de l'Europe qui me donne la possibilité d'être ici aujourd'hui. Et j'aimerais également remercier les orateurs qui m'ont précédent, l'orateur qui aurait dû s'exprimer maintenant et qui m'a cédé la place pour que je puisse prendre mon avion. Et nous allons donc traiter des besoins de santé des adolescents et nous parlons de la santé de façon générale. Nous ne parlons pas que des questions de dépendance. Les différents pays ont différentes législations à cet écart, mais je crois que le point principal de ce mémoire, c'est qu'il faut placer les choses dans leur contexte. Vous avez une idée générale, l'idée européenne, des lignes d'orientation, mais vous devez les appliquer dans vos contextes nationaux. Selon leur intérêt pour votre contexte national. Selon l'OMS, l'adolescence est définie comme la période entre 10 et 19 ans. Et il y a plusieurs questions qui portent sur le développement de l'adolescence et notamment le développement du cerveau. Les recherches au cours des décennies ont donnait à penser que le cerveau avait atteint son développement à 19 ans, mais ce développement se poursuit jusqu'à 24 ans. Donc, il y a toute une série de changements, notamment dans la société, auxquels les adolescents doivent s'adapter. 40% de la population européenne est adolescente. 14%, pardon, c'est un grand nombre de la population. Généralement, ils sont en bonne santé. Et lorsque l'on parle de santé, nous parlons de la bonne santé et de la mauvaise santé. S'ils sont généralement en bonne santé, cela ne signifie pas qu'il n'y ait pas de facteurs de risque sur lesquels nous devons nous attarder ou d'autres aspects qui ne sont pas visibles en clinique, mais qui devraient être traités par des travailleurs sociaux pour empêcher des complications plus tard. Le thème est la santé dans un monde en changement. Il y a des changements rapides qui se font dans le monde qui affectent l'adolescence. Et nous voulons faire tout ce qui est à notre portée pour qu'ils grandissent en étant heureux et résilients. Donc, ce que nous savons, que c'est une époque critique pour le développement, notamment pour le cerveau. Nous pensions que ce développement était terminé à 19 ans, mais selon les données scientifiques, on sait que ce n'est pas vrai, notamment pour ce qui est des fonctions supérieures, la prise de décision, le contrôle des impulsions. Celle-là se développe plus tard. Il y a également un développement physique, une première période de 10 à 14 ans, qui sont les changements physiques que l'on voit, c'est-à-dire l'apparition des caractéristiques de sexuelles, et puis entre 15 et 19 ans, la consolidation, la formation de l'acquisition et la consolidation des habitudes. Nous savons que 75% des troubles mentaux sont présents avant 25 ans et souvent avant l'âge de 14 ans. Et ça, c'est un chiffre très important et c'est quelque chose qui nous échappe souvent. La première raison de décès la première cause de mort chez les adolescents. Également, les maladies transmissibles sont une cause de décès. L'abus de différentes substances reste stable. Il y a d'autres déterminants que nous ignorons lorsque nous déployons nos efforts de prévention. Par exemple, l'éducation, l'accès à l'éducation, l'accès aux soins de santé et un mode de vie sain, par exemple l'utilisation des médias, le fait d'être en ligne, l'activité physique. Et ce qui est très important, on en a parlé tout à l'heure, la pauvreté et l'inégalité et l'accès aux services pour les jeunes gens qui en ont véritablement besoin. Et la recherche et les données concentre généralement sur les petits-enfants jusqu'à 5 ans ou jusqu'à 10 ans. Donc, beaucoup d'efforts sont déployés pour ces groupes d'âge. Et cela nous a aidés à comprendre beaucoup de questions de développement plus tard. Mais nous n'avons pas atteint le deuxième niveau de prévention qui, lui, doit avoir lieu à l'adolescence. Les bonnes pratiques et des pratiques courantes qui fonctionnent, qui sont efficaces, qui sont rentables au sein des communautés, sur la toile, à l'école, dans les familles et en thérapie individuelle si nécessaire. Pour ce qui est de la rentabilité, il y a des résultats immédiats de réduction des coûts lorsque des interventions fondées sur les preuves sont mises en œuvre. En même temps, des autres chercheurs disent qu'ils il nous faut faire une évaluation à plus long terme pour évaluer à plus long terme cette rentabilité. Une once de prévention vaut une livre de soins et c'est ce qui sous-tend mon exposé. L'OMS a dit que l'adolescence est notre ressource principale. C'est pourquoi nous devons investir dans les adolescents pour avoir un futur sain. Que faire à l'avenir? Préserver les investissements qui sont faits dans l'enfance. Nous investissons beaucoup dans les enfants jusqu'à 10 ou 12 ans, mais nous ignorons une grande partie de la santé des adolescents. Et puis ensuite, on s'intéresse à l'âge adulte, comme les maladies cardiaques, les cancers et tous ces aspects. Et il y a une lacune au milieu pour ce qui est de la prévention, pour ce qui est de ces problématiques de santé qui se développent ultérieurement. Nous devons voir les choses sous l'angle de tous les facteurs, ne pas fournir seulement de l'éducation ou de la thérapie. Des efforts doivent porter sur la preuve de ce qui fonctionne. Beaucoup d'efforts sont dits efficaces, mais ils ne le sont pas forcément. Il faut faire la part de ce qui fonctionne et de ce qui ne fonctionne pas. Et il faut que les efforts soient ciblés en fonction des besoins et des priorités de chaque pays. Mais nous avons besoin des données qui nous permettront d'identifier ces priorités. Nous n'avons pas toujours les financements pour identifier ces besoins. Donc nous avons des données et des lignes d'orientation au niveau européen. On les applique de facto à nos situations. Il nous faut utiliser ces lignes d'orientation, certes, parce qu'elles sont basées sur l'expérience et la recherche, mais nous devons également savoir voir les choses par le prisme national et local. Il faut également parler de la participation de la jeunesse dans les initiatives du Conseil de l'Europe. Nous devons entendre leur voix. Ce ne sont pas toujours les adultes qui ont raison. Nous ne vivons pas leur vie d'adolescent et nous devons également fournir une protection et œuvrer à l'équilibre et faire en sorte qu'ils prennent des décisions saines pour eux-mêmes. Et puis la coordination des efforts et éviter dans des grands pays ou de plus petits pays comme les miens, les doublons ou le chevauchement. La formation professionnelle, c'est également un domaine qui doit être étoffé. Beaucoup de domaines dans le domaine professionnel, beaucoup se concentrent sur les enfants ou sur les adultes. Il faut également des stratégies pour garantir qu'il y ait des politiques indiquant aux acteurs principaux ce qu'ils doivent appliquer. Il y a des évaluations, un suivi de telle sorte que nous sachions tous tout avance dans le sens que nous avons choisi. Je voudrais citer Ban Ki-moon. Ce qui fonctionne avec les adolescents, c'est que nous les impliquions à tous les niveaux et que nous impliquions tous les niveaux de la société, assurer que les adolescents ont accès à des opportunités dans le domaine de l'innovation et promouvoir les droits humains des adolescents, en particulier des filles. Merci beaucoup.
Thank you very, very much.
Merci infiniment, Eleni. Je voudrais vous demander, chers collègues, si vous avez des questions à poser à Eleni Karayannini. Merci.
Bonsoir.
Merci, Monsieur le Président. J'aimerais tout d'abord accueillir mes collègues ici à Lisbonne et au Portugal et féliciter Dorine de son rapport qui est si important et d'une actualité si brûlante. Et j'aimerais également féliciter la spécialiste Eleni Karayannini. Je crois qu'il convient de souligner que à l'ère numérique où les jeunes ont accès à pléthore d'informations par Internet, il convient de souligner combien l'éducation sexuelle est importante. À mon avis, elle doit être entamée aussi vite que possible, bien entendu, en l'adaptant à la tranche d'âge. Et elle doit être dispensée par des spécialistes. Faute de quoi, au vu de l'accès qu'ont les jeunes à l'Internet, ils peuvent avoir une vision complètement faussée de ce que doit être la sexualité. Et donc, ils feront un mauvais usage de leur propre développement sexuel. Par ailleurs, j'aimerais demander... J'aimerais savoir dans quelle mesure les déterminants sociaux peuvent-ils conduire à une série d'inégalités face à la santé. Tout d'abord, pour ce qui est de l'accès à la santé, mais également pour ce qui est de l'accès à l'information. Sans oublier le fait que les jeunes gens ne sont pas prémunis contre des excès alimentaires, comme par exemple ceux qui mènent à l'obésité, car dans leur famille, ils n'ont pas l'éducation qui leur permettrait d'avoir une alimentation saine. Donc, il y a donc une inégalité qui est le produit de leur contexte socio-économique. Merci.
Je vais faire la première partie. Eleni se chargera de la seconde plus compliquée. Je voudrais vous dire que je suis heureuse de l'intervention d'Eleni sur ces questions, car elle est professionnelle, elle est rigoureuse et aussi quelqu'un de très agréable avec qui l'on peut collaborer. Je reviens à votre question. Le micro est... de madame ne marche pas bien. Donc, le problème des médias. Il y a donc des aspects qui sont très importants et positifs dans le travail des médias. Mais il y a quand même la brutalité, la cyberbrutalité, pornographie, tout ça sur les médias, notamment Internet. Il y a un gros problème de son. Le micro de madame Massé est défectueux. Donc voilà, je disais qu'il faudrait qu'il y ait des restrictions imposées aux médias pour ce qui concerne les enfants et les adolescents, des sanctions légales dans tous nos pays. Nous connaissons tous des cas particuliers, mais il n'y a pas assez qui soit fait. Il faut aussi aider les adolescents à développer une résilience à cette pression, fournir des informations sur ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Pas ce qui est faux. Je ne parle pas donc de consignes morales, mais l'éducation à la sexualité, parce que je sais qu'il y a beaucoup de connotations quand on parle d'éducation sexuelle. Voilà, en tout cas c'est le cas au Royaume-Uni. Donc éducation à la sexualité est le vocable que je préfère. Et là, les jeunes doivent apprendre donc à avoir des relations d'amitié qui peuvent évoluer au fur et à mesure. Et voilà, et il peut y avoir des informations supplémentaires sur la sexualité, ajouter la contraception, et aussi apprendre à dire non et résister aux pressions dont ils sont souvent les proies. Et c'est vrai que c'est bien de donner des programmes scolaires, mais est-ce qu'on peut seulement s'en remettre à cela? Non, il faut que la société et les parents soient éduqués, puisque avant d'entrer à l'école, l'enfant doit apprendre nécessairement de sa famille. Si les parents ne savent pas, et si les parents eux-mêmes émettent des résistances ou ont leurs propres difficultés à accepter, à discuter ces questions de sexualité, alors... ce sera difficile de rattraper la chose à l'école. C'est une des difficultés que nous rencontrons. Donc, pour ce qui concerne les chiffres, les médias, c'est un problème. C'est tellement un problème qu'il y a une nouvelle addiction, une nouvelle dépendance aux médias qui a été recensée, surtout dans les réseaux sociaux. 66% des ados, en Espagne, 12 sont forcés à avoir des actes sexuels. Donc voilà, il manque donc d'alphabétisation, au niveau des médias. Ils doivent savoir aussi où aller, à qui, sur quelle porte taper. Donc voilà, j'ai quelque chose dont je voudrais parler. Et bien souvent, c'est encore plus difficile de le faire à la maison, surtout s'ils sont issus d'un milieu plus conservateur. Voilà. Les déterminants socioculturels, si vous vivez dans un contexte démuni, les difficultés, les problèmes mentaux, physiques, sont décuplés. Donc voilà, souvent les jeunes filles sont enceintes plus tôt, il y a encore plus de comportements malsains, encore plus de problèmes d'accès aux soins de santé. les services sont offerts, surtout dans les grands centres. Ils ne sont pas offerts dans les petits centres. Le micro s'est à nouveau éteint. Donc, il y a des problèmes donc, liés au niveau de pauvreté. Donc, il faut. Donc, il y a des études pour prester des services sanitaires dans les régions reculées. Il faut donc qu'on identifie les problèmes dans leur contexte, mais bien sûr, bien souvent, c'est accompagné des problèmes de financement. S'il n'y a pas de financement de ces efforts, alors on ne va jamais sortir du cercle vicieux de l'inégalité. Voilà, les personnes qui n'ont pas d'opportunités ne peuvent pas donc créer d'autres opportunités, voyez-vous. Donc c'est un cercle vicieux. Les interprètes sont navrés, mais il y a vraiment un problème d'interférence avec le micro de madame. Veillez à ce que la lumière de votre micro soit toujours allumée. Il est possible qu'il y ait un problème d'interférence avec l'ordinateur ou un autre appareil électronique. Avez-vous un téléphone portable à côté? Il y a l'ordinateur, en tout cas.
Non, ok.
Bon, passons. Stella, vous avez la parole. Merci. Je voudrais remercier Dorine d'avoir accepté de faire ce rapport et je remercie Eleni pour sa présentation. Il me semble qu'il s'agit là d'un rapport fort intéressant car il jette la lumière sur des choses qui sont en dessous du niveau de détection et nous donne la possibilité d'en parler plus avant. D'abord, nous parlons quasiment jamais des ados, hormis lorsqu'il s'agit de leurs problèmes, de combien il est difficile d'avoir des enfants ou des petits-enfants de cet âge pubertaire. Or, ceci nous a valu de ne pas traiter leurs besoins comme étant des besoins particuliers, différents des autres groupes de population. Donc, il y a des hôpitaux pour les enfants, des hôpitaux pour les adultes, mais il nous faut aussi des professionnels spécialisés dans la santé des adolescents. Voilà, je voulais vous poser la question à nouveau des interférences. Faut-il donc une formation spéciale des professionnels qui traitent des soins aux adolescents? Est-ce que quelqu'un qui traite des adultes peut travailler tout aussi bien avec quelqu'un de 17 ans ou le contraire, quelqu'un qui travaille avec les enfants peut-il traiter tout aussi bien un adolescent? Deuxième question. En tant qu'adulte, nous avons conscience du fait que les enfants ont besoin de protection. Or, les adolescents aussi ont besoin de jouir d'une protection. Bien sûr qu'ils essayent d'obtenir bec et ongles leur indépendance, mais ils sont encore plus à risque pour des risques de santé mentale, prise de risque et autres. Faut-il donc faire plus de sensibilisation au niveau de la protection de l'âge adolescent, un âge où les parents ne doivent pas simplement savoir que voilà leurs ados veulent devenir indépendants, mais qu'ils ont besoin d'être protégés et encadrés tout au long de leur développement d'adolescent.
Eleni, I want to call.
Eleni, je vais collecter les questions. Une seconde, Eleni. Dit le président, je voudrais encore une question pour avoir des blocs. Voilà. Vous avez la parole.
Thank you for this.
Merci pour cette présentation. Sergueï, d'Ukraine. Les chiffres sont intéressants. 75% de problèmes de santé, de troubles mentaux, donc avant l'âge de 24 ans, et 50% à l'âge de 14 ans. Bon, je crois comprendre qu'il y a différentes causes sous-jacentes à ces troubles mentaux, génétiques, donc contexte familial, l'école. Mais il y a un autre problème sur lequel j'attire votre attention, chers membres, c'est les enfants qui ont connu la violence en situation de conflit armé. Bon, on a eu un rapport, c'était Madame Fatalieva, enfant dans les zones de conflit, qui a été présentée au Conseil de l'Europe. Donc il y a des conflits résorbés et des conflits présents énormes. Donc voilà, quand on parle dans le rapport des adolescents, il faut aussi lancer un avertissement aux pays qui sont en train de vivre justement ces guerres et conflits armés. Les adolescents, lorsqu'ils parviennent à l'âge de 14 ans jusqu'à 24 ans, dans l'ex-Yougoslavie par exemple, nous avons des représentants de Bosnie, Herzégovine, Croatie, Serbie ici présents. Je me demande s'ils ont des statistiques ou encore des études sur comment est-ce que cette guerre a touché les jeunes. Voilà. Comparé donc à la période précédente, avant la guerre. Y a-t-il des différences? Quelles sont ces différences? Quelles ont été les trop principaux? Est-ce qu'il y a eu plus d'addiction, de dépendance? C'est important d'avoir des chiffres, car ça servirait à d'autres pays, à la Géorgie, le Moldova, la Moldavie et l'Ukraine. À quoi s'attendre? Et peut-être qu'il nous faudrait quand même assurer un suivi de ces enfants, notamment les enfants qui sont des déplacés internes. Plus de 50% sont quand même des enfants. Est-ce qu'ils le méritent d'être suivis particulièrement? Qu'est-ce qu'il faut rechercher donc en tant que ministre de l'éducation, de la santé publique, dans le système éducatif? Ces enfants donc, comment sont-ils pris en charge? Est-ce qu'on va leur procurer des recommandations particulières et surtout à l'adresse des psychologues scolaires? Il faut qu'ils soient préparés donc à la survenance de ces troubles. Voilà, possibilité de leur survenance. Merci beaucoup. Je vais commencer par la dernière question qui concerne les enfants et adolescents qui sont frappés par les conflits violents. Il y a des données d'autres situations de guerre qui existent. Pour autant, ces données ne sont pas toujours disponibles facilement. Et aussi, et c'est dans le mémoire, surtout en Europe. C'est vrai qu'on a tendance à se concentrer sur des aspects très pointus, mais pas sur le tout. Donc, les données, il faut les avoir avant pour savoir comment les comparer, donc connaître les besoins et comment est-ce qu'il y a eu un changement. Pour les traumatismes, ça touche les gens en général, les enfants et les ados, plus que les autres. Voilà, il ne faut pas attendre l'adolescence pour intervenir à 24 ans. C'est trop tard pour traiter ces traumatismes. Je le sais par expérience, travailler avec les enfants qui sont victimes d'abus sexuels, plus vous attendez, vous avez des enfants mal ajustés, c'est beaucoup plus difficile et beaucoup plus coûteux quand on intervient plus tard. Donc si vous avez des enfants qui sont affectés dans les zones de conflits guerriers, il faut apporter cette aide professionnelle le plus rapidement possible pour qu'ils puissent se réinsérer dans la société de façon la plus saine possible. Et puis, on a une situation sans précédent en tant que continent, avec tous ces conflits guerriers, plus les flux migratoires. Ça présente de nouveaux défis en matière de santé mentale et physique. Les professionnels de ces domaines doivent en savoir plus. Donc voilà, ce n'est pas du tout la même chose que d'avoir une personne qui a eu donc une phase d'abus à un moment donné, et donc les enfants qui donc ont connu répétitivement ces traumatismes. Et puis il y a les enfants qui sont issus donc de ces conflits guerriers et ceux qui y vont. Voilà, quelques commentaires, si vous me permettez. Nous savons que la population de migrants qui sont en partie aussi issus de la traite, eh bien, dans ce groupe-là, il y a beaucoup d'enfants. Et donc, c'est vraiment au niveau des pays qu'il faut agir. Car les gens qui sont au courant, bon, on ne sait pas toujours exactement ce qui se passe. Mais, par exemple, pour le Royaume-Uni, il y a quelques jours, on m'a dit que 200 jeunes qui disparaissent toutes les semaines. Les services domestiques, ils disparaissent. Ils ne sont pas recensés, on ne les retrouve plus. Alors, un des principes, les enfants doivent être traités comme des enfants jusqu'à 18 ans, d'après donc la Convention des Nations Unies sur l'enfance. Donc, ce sont des enfants. Or, le problème, lorsque les enfants se transforment en adultes, il y a une sorte de phase, donc 17 à 18 ans, ils sont souvent traités comme des adultes, on les enferme dans des établissements psychiatriques ou encore des lieux de détention pour adultes. C'est pas bien. Ils ont besoin de soins, ces enfants. Le micro s'est éteint à nouveau. Donc, il faut traiter les enfants en tant que tels, avoir des services spécialisés pour le faire. Et il faut faire, et quand il n'y en a pas de tels services, les enfants souvent sont dans la rue et peuvent mourir. Donc, à l'âge, voilà, charnière de 17 à 18 ans, il faut quand même les traiter comme les enfants. Je reviens à la question des services spécialisés, de la formation. C'est vrai que beaucoup de professionnels ont tendance de concentrer leur formation sur les moins de 10 ans, moins de 12 ans, les pédiatres par exemple, et les psychologues et psychiatres également. Ça, je le sais, puisque je travaille beaucoup avec ces spécialistes. Après, il y a les services adultes, ce qu'a dit Doreen, donc les services psychiatriques qui acceptent donc les jeunes de 17 ans comme étant des adultes, et c'est un grand problème pour nous. Nous avons besoin de formations spécialisées. Souvent, nous traitons d'adolescents. Hélas, le micro est... Soit on traite donc leur comportement comme étant anormal, ou alors on pense que voilà, ça fait partie des crises de l'adolescence. Voilà, c'est juste une phase, ça passera. L'interprète est navré. Donc le problème est un problème d'interférence de micro, et ce n'est pas seulement ce micro, c'est aussi le micro des trois dames. Yeleni, il nous reste encore une question, la question de Petra de Souter. Vous avez la parole et Eleni pourra terminer. Merci. Merci, madame, pour les chiffres très intéressants que vous avez livrés et d'avoir expliqué qu'est-ce que vous faites. Moi, je m'intéresse à la santé génésique en tant que psychologue. Voilà. Il y a le rapport donc de 2000 dont vous parlez. Vous pourriez, s'il vous plaît, nous dire un peu plus sur les taux d'avortement, accès à la contraception en Europe, comment traiter donc de cela, et si vous avez aussi des chiffres sur les grossesses chez les adolescentes. Je crois que les chiffres, autant que je suis informée, sont semblables pour les jeunes adultes. Bon, Dorine a parlé d'éducation à la sexualité. Est-ce que vous pensez que c'est lié, ça manque d'éducation? Et je voudrais aussi qu'on parle de la cross-sectionnalité, c'est-à-dire si on parle des troubles mentaux, et troubles somatiques, il y a une interaction sur la santé génésique, je peux m'imaginer. Il y avait une question qui concernait l'Allemagne. Les soldats dans l'armée allemande ont à 10% moins de 18 ans, alors qu'on se bat partout ailleurs dans le monde contre le phénomène des enfants soldats. Il va falloir vérifier quel est l'âge où un jeune homme et une jeune femme peut donc entrer dans les rangs. J'étais choquée que la Deutsche Bundeswehr recrute des gens si jeunes, en dessous de 18 ans. Patrick, il y avait une question sur la contraception et les grossesses adolescentes. On a beaucoup de chiffres sur le comportement adolescent pour ce qui concerne la sexualité. Beaucoup de chiffres qui proviennent d'Europe, mais encore plus des États-Unis. Mais c'est vrai que c'est un peu différent. Mais on a quand même des chiffres. La question, pas seulement à vous, mais la précision de ces chiffres. Il me semble qu'il y a parfois donc une surreprésentation ou encore une sous-représentation. Il y avait aussi une étude de l'IPPF qui demandait à des garçons de 15 ans combien de fois est-ce que ils avaient donc des relations sexuelles. Est-ce que vous faites confiance à leur réponse? C'est vrai que je suis un peu méfiante des statistiques à cause de cela. Il y a des tendances, j'en suis convaincue. Il y a des statisticiens qui sont meilleurs que d'autres. Mais voilà, je pense que si ces chiffres pour les femmes qui sont des jeunes femmes et qui sont plus ados, ces chiffres seront plus justes. Pour les avortements, oui, nous avons des chiffres. Mais c'est plus flou. Je devrais vous en parler plus dans le détail. Il y a des chiffres, mais après, et d'ailleurs pour tous les pays européens, hein, dans un tableau, mais le degré de confiance en ces chiffres, je ne peux pas vraiment vous répondre avec certitude. Souvent, ce n'est pas rapporté très exactement. Donc, il faudrait aider Petra. Je vais emboîter le pas sur ce qu'a dit Dorine sur la question des taux d'avortement chez les adolescentes ainsi que leur grossesse. Donc, il faut aussi associer ceci aux facteurs sociétaux dont on parlait tout à l'heure. Et je suis d'accord avec Dorine, je ne me fierai pas trop sur les chiffres. Et moi-même, je ne peux pas vous dire grand-chose là-dessus. Dorine a plus de chiffres que moi, mais je suis d'accord avec Dorine sur la méfiance par rapport aux chiffres. Il faut tenir compte toujours du contexte culturel du pays, surtout pour ce qui concerne le rôle de la religion dans les décisions et les comportements, la législation ou l'absence de législation, disponibilité d'éducation à la sexualité et aussi de quoi traite-t-on dans cette éducation à la sexualité? Est-ce que il y a aussi les droits à l'avortement des femmes et jeunes filles? Donc on ne peut pas toujours s'en remettre aux chiffres, surtout dans les pays où il y a absence de législation en vigueur sur ces questions. Merci beaucoup pour cette introduction et je vous remercie à vous tous d'avoir participé à ce débat. Nous allons continuer à suivre de près ces questions. Petra, si besoin, j'ai les chiffres ici, si vous les voulez. C'est un document écrit d'Eleni. Je pense que nous l'avons tous, ce rapport. dans le dossier. Ah oui, pardon, bien sûr. Le président donc de la commission du règlement doit être très organisé. Pardonnez-moi, c'est moi qui ne le suis pas. Nous avons donc une pause café. Le café servi dehors. Je voudrais commencer par l'échange de vues sur le rapport de Louis. Mais peut-être il y a Monsieur Kiefer, ensuite le ministre. Combien de temps pour la pause café? 15 minutes. Donc, je vous attends dans 15 minutes. Et après ce travail, nous aurons le déjeuner. C'est à l'intérieur de l'Assemblée de la République que le déjeuner sera servi. Bonne pause café. Merci.
Please take seats that we can.
Veuillez reprendre vos places pour que nous puissions poursuivre nos travaux.
On continue par quoi, hein?
Je crois que c'est le Ramouche là, des centrales. On reprend.
Où est Casimate? Italien? Okay, we are coming now to the topic number four.
Point numéro 4, le rôle des parlements nationaux pour assurer le succès des processus de décentralisation. Avec notre rapporteur, nous l'avons mentionné à plusieurs reprises, et Monsieur Luis Leit Ramos. Et nous aurons un échange de vues avec Monsieur Carlos Miguel, secrétaire d'État pour collectivités territoriales, et Monsieur Andreas Kiefer, secrétaire général du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l'Europe. Après cet échange de vues, nous devrons adopter le rapport. Rapport qui sera débattu en plénière en octobre. Louis, je souhaitais vous prendre la parole au sujet de votre rapport. Merci beaucoup. Au cours de cette première intervention, j'aimerais souhaiter la bienvenue à tous ceux qui sont ici et saluer le président, le secrétaire d'État et le secrétaire général du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l'Europe. J'aimerais saluer également le président de la Commission portugaise de l'environnement, du territoire et de la décentralisation. Et je voudrais vous dire que ce rapport naît d'un intérêt conjoint de plusieurs députés et de plusieurs pays qui vivent en ce moment des processus de décentralisation. Ce rapport part d'un principe très simple. Quel est le rôle que le Parlement peut et doit avoir dans ce processus de décentralisation afin que ces derniers soient efficaces et répondent aux attentes? Dans bien des cas, les parlements ont été tenus à l'écart ou n'ont eu qu'un petit rôle dans ce processus de décentralisation. Bien entendu, le Parlement a un rôle important dans l'approbation des lois, des budgets et dans le suivi et la surveillance de processus de ce type. Si cela est le cas, nous pensons qu'un rôle essentiel leur revient dès la première heure dans les processus de décentralisation et jusqu'à leur suivi. Nous avons donc voulu faire l'inventaire de ce qui se passe dans les différents pays européens, quelles sont les tendances et quels sont les facteurs qui contribuent à la réussite et à l'échec parfois de ces différents processus de décentralisation. Et nous avons également voulu savoir comment nous pourrions recommander aux différents gouvernements qu'ils introduisent dans leurs pratiques comme dans leurs décisions un ensemble de réglementations qui, en fin de compte, rendent ces processus plus fluides, car ils sont essentiels non seulement notamment pour l'approfondissement de la démocratie, pour les droits humains et pour un plus rapprochement social et territorial. Il est donc important que les gouvernements puissent améliorer ces pratiques. Je voudrais dire également que ce rapport n'a pu voir le jour que parce que dès le jour, il y a eu une entente et une collaboration très étroite avec le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l'Europe. Au sein des autres institutions ou des autres organes de la Commission de Venise, le Comité pour la gouvernance, nous avons travaillé main dans la main pour faire de ce document un document important dans lequel seraient reflétées les différentes sensibilités, les différentes positions, et également pour que tout un chacun puisse assumer son rôle au sein du Conseil de l'Europe. C'est pourquoi je voudrais remercier Andreas Kiefer de sa contribution inestimable, de la contribution du Congrès, et à Julia et à Meinke qui avaient ce rôle avant elle, les remercier de tout le travail qui a été abattu sous la direction de Tania par les services d'appui à cette commission, car sans ce travail si important, rien ne pourrait être possible. Nous pourrons améliorer, altérer ce rapport, comme vous l'entendrez, car ce rapport a pour but de refléter toutes vos sensibilités et de faire l'objet du plus grand consensus possible, comme cela doit être le cas pour des rapports et des documents de cette nature. Merci. Merci, Louis. Je voudrais ajouter deux ou trois remarques. Votre rapport arrive à point nommé. Cette année, en effet, nous fêtons le 30e anniversaire de la charte du gouvernement local et c'est donc la meilleure occasion que nous puissions souhaiter pour débattre de cette question et reprendre le flambeau de la présidence croate du comité des ministres qui a déclaré que cette année, il y avait trois priorités. Je voudrais donner maintenant la parole à monsieur Miguel et ensuite à monsieur Kiefer, et ensuite je reviendrai vers vous pour prendre vos questions sur la décentralisation et le rôle des collectivités locales et des régions.
Quod vida venia. Excelentissimo Signor Presidente da Commissão de Assuntos Sociais, Saúde e Desenvolvimento Sustentável.
Monsieur le Président de la Commission des Affaires Sociales, Santé et Développement Durable. Monsieur le vice-président, monsieur le président du Conseil des pouvoirs locaux et régionaux, mesdames, messieurs les parlementaires, mesdames, messieurs, chers concitoyens, je vous salue chaleureusement à tous. C'est pour moi un privilège que de pouvoir participer à cette séance de la Commission des Affaires Sociales, Santé et Développement Durable du Conseil de l'Europe, alors que l'on célèbre les 30 ans de la Charte européenne de l'autonomie locale, un jalon qui nous convoque et conforte depuis 1988. Au cours de cette séance et évocation. Cette charte assume un rôle fondamental lorsque le gouvernement, l'Assemblée de la République, les pouvoirs locaux et les citoyens discutent de l'établissement du pouvoir local au présent et au futur. Et ceci dans une optique réformatrice unique. C'est pourquoi le gouvernement a lancé un processus de réforme profonde, recentrant et redonnant un élan aux pouvoirs locaux comme agents de l'administration de l'État, plus proche des citoyens, en faisant en sorte que l'administration publique soit plus équilibrée. Le gouvernement est bien conscient, et ne l'oublie pas, que l'OCDE considère le Portugal comme l'un des pays les plus centralisés de l'Europe. C'est sur la base de cette confiance et à partir de la détermination de ceux qui ont un savoir que le gouvernement relève ce défi avec confiance et prouve que les municipalités et les mairies d'arrondissement ont un savoir essentiel. L'administration locale est un acteur fondamental des 44 années de démocratie portugaise. Après les premières élections libres en 1976, les élus locaux ont toujours su interpréter les besoins et les vouloirs des populations et du pays. Ce sont eux qui ont assuré les infrastructures de base, puis ont construit les équipements nécessaires aux populations. Ultérieurement, ils ont assumé des services à la population et aujourd'hui, ils donnent une priorité à l'économie et à l'attractivité de leurs territoires respectifs. Et donc, c'est avec ces élus locaux que le gouvernement souhaite renflouer l'administration de l'État. En faisant de la décentralisation des compétences de l'administration centrale vers l'administration locale, la réforme des réformes. Comme l'a si bien dit le Premier ministre, M. António Costa, la décentralisation est la pierre angulaire de la réforme de l'État. C'est sur cette conviction qu'il y a 2 ans, le gouvernement a lancé un processus de dialogue et ceci avec l'Association nationale de municipalités et l'Association nationale des mairies d'arrondissement dont nous louons l'initiative et en associant toujours l'Assemblée de la République à ces initiatives. C'est un travail minutieux, transparent, profitable dont les résultats législatifs sont là. Un travail politique qui a impliqué et implique toujours tous les partis politiques siégeant au Parlement et dont l'accord conclu avec la nouvelle direction du Parti social-démocratique, le PSD, a permis de faire un pas déterminant pour que l'Assemblée de la République adopte la loi cadre de la décentralisation publiée le 16 août dernier. Le chemin n'a pas été simple, d'ailleurs, rien n'est facile quand les choses sont importantes. Mais l'Assemblée de la République a su répondre de façon positive aux besoins de moderniser et de rapprocher l'administration portugaise des citoyens. Maintenant, le moment est venu de matérialiser cette loi cadre en diplôme juridique qui aborde différentes questions de la culture à l'éducation, la santé, la justice, l'aide sociale, la protection civile, le stationnement automobile, la captation d'investissement. Et ceci à hauteur de 21 diplômes sectoriaux. Je dis bien 21 diplômes dans différents secteurs qui ont en commun le fait de pouvoir s'appliquer sur l'ensemble du territoire au rythme que chaque administration locale jugera utile, sachant qu'en 2021, toutes les compétences décentralisées devront être exercées par toutes les administrations locales du continent. 21 diplômes, je le répète, qui ne mettent pas en cause la nature publique du service de l'État, ni l'égalité d'opportunités en ce qui concerne l'accès à ces services, bien au contraire. L'universalité transversale et horizontale sont des propos de la décentralisation et du paradigme qui la sous-tend. Un travail ardu, mais qui est motivé, où tout était obtenu par consensus. Le gouvernement a toujours été transparent et loyal vis-à-vis des partenaires qui, à leur tour, ont répondu de la même façon. Nous avons déjà fait un long chemin, mais il reste encore un long parcours. Beaucoup d'obstacles se présenteront et c'est justement ce que nous continuerons de faire, les transposer. Le gouvernement, le Premier ministre, moi-même, nous sommes convaincus, compte tenu de notre engagement, qu'en octobre prochain, nous arriverons à avoir concerté tous les diplômes nécessaires avec les deux associations, celle des municipalités et des arrondissements. Et ainsi, nous aurons une administration publique plus souple, plus proche, plus efficace, pour mieux servir les personnes et le territoire. Grâce à la décentralisation et avec une enveloppe financière associée à celle-ci, sans avoir augmenté la dépense publique, le gouvernement converge vers la finalité ou le but de 19% en ce qui concerne la participation des administrations locales avec des recettes publiques, et ceci selon le programme national de réforme. Monsieur le Président, chers concitoyens et concitoyennes, le gouvernement voit les administrations locales comme de véritables partenaires, des partenaires qui partagent une finalité que nous voulons concrétiser au quotidien, c'est-à-dire mieux servir les personnes et mieux servir le territoire. Pour ce faire, nous comptons sur tout un chacun et tous ensemble, nous ne serons jamais de trop pour construire une administration publique d'avenir plus légère, plus équilibrée, plus efficace, plus participée et étant mieux observée, une administration publique moins centrale et plus locale. Et je termine là où j'ai commencé. Ce fut un privilège que de pouvoir prendre la parole ici et maintenant. Et vous souhaite que la lumière de Lisbonne vous illumine à tous sur les chemins du service public. Merci.
Mr. Miguel, we are honored that you...
Merci, Monsieur Miguel, vous nous honorez de votre présence. Merci de cette allocution qui était si sensible et tout à fait frappante. Y a-t-il des questions pour Monsieur Carlos Miguel? Sinon, je donne immédiatement la parole à Monsieur Andreas Kiefer, secrétaire général du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l'Europe. En octobre, lorsque nous débattrons du rapport de Louis, le président des régions parlera également en plénière.
Merci beaucoup, Monsieur Chénard. C'est un plaisir et un honneur. C'est un honneur que d'être ici. Luis Ramos a réussi donc à réunir donc les différents acteurs, gouvernement représenté par M. Miguel, les parlements représentés par l'amphitryon, l'Assemblée parlementaire, ainsi que le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux de l'Europe. Et voilà, je suis honorée de revoir demain M. Cabreto qui va donc s'adresser à la séance des congrès donc pour parler donc de l'état d'avancement de la décentralisation à son pays. Nous discuterons de recommandations, voir comment son pays peut contribuer donc de l'expérience des autres 46 pays membres en matière de décentralisation, un processus souvent complexe qui nécessite savoir-faire, mais aussi un peu de chance politique, quelque chose qu'on ne saurait prévoir du départ. Et il faut donc traiter avec les représentants des différentes associations territoriales. C'est un grand plaisir, un plaisir particulier, le mois où nous fêtons le 30e anniversaire de l'entrée en vigueur de la Charte européenne l'autonomie locale. C'est donc un traité jalon qui oblige les États membres de mettre en œuvre le principe de subsidiarité, permettre aux décisions d'être prises au plus proche des citoyens que possible. Au Congrès, nous sommes heureux que ce rapport préparé par M. Leite Ramos sorte maintenant, car nous voyons des tendances dans certains pays à la recentralisation, où le niveau de confiance entre les différents échelons est en train de s'estomper à nouveau, ce qui montre bien le rôle, bien sûr, des gouvernements, mais aussi des parlements dans ces processus de décentralisation. Un rôle bien souvent négligé. Bon, certains gouvernements ont tenté de recentraliser les reins du pouvoir qui avaient été accordés aux autorités territoriales au lieu d'adopter une démarche partenariale, au lieu de profiter des bonnes pratiques et expériences faites au niveau donc local. Nous pensons que le Conseil de l'Europe et les autres organes ne peuvent pas être attentistes lorsque la démocratie perd du terrain et qu'il s'agit donc de bénéficier donc des effets positifs de la proximité des services aux citoyens et que ces services sont dénigrés et que l'on ignore ou qu'on ne tienne pas compte entièrement de ces expériences. C'est pour cela que nous avons adopté un projet de résolution concernant donc le renforcement de la démocratie locale comme contribution au bien-être ainsi que à la sécurité de nos sociétés. Alors, lorsque la charte est entrée en vigueur, nous ne savions pas si tous les États membres de cette grande famille du Conseil de l'Europe viendraient à bord. Mais voilà, Saint-Marin, Monaco, Andorre, c'était les derniers pays qui ont ratifié la charte. Eh bien, les 47 États membres du Conseil de l'Europe donc ont répondu présents et font leur ces valeurs communes. Alors, le rôle des parlements nationaux, ils ont pour rôle de ratifier la charte, hein, dans un second temps, établir le cadre juridique pour permettre donc la gouvernance locale et régionale qui donc doit mettre en œuvre, bien sûr exercer un rôle donc de suivi de surveillance pour l'application donc de cette charte et émettre des rapports de suivi. Donc consolidation des institutions démocratiques à tous les échelons central, national, régional et local, ayant tenu compte donc des dispositions de la charte. Monsieur Jagland, secrétaire général du Conseil de l'Europe, a dit dans son rapport de 2016 qu'il y avait une tendance dangereuse au nationalisme législatif. Fin de citation. C'est-à-dire qu'il y a des législations qui semblent ou qui risquent de mettre à mal les traités internationaux ou les conventions, notamment du Conseil de l'Europe. Or, bien sûr que nous ne sommes pas ici pour exprimer nos désappointements par rapport à ces choses-là, mais surtout pour défendre les intérêts de nos citoyens qui sont exclus, alors que nous avons travaillé côte à côte avec les collègues des parlements nationaux. Donc le parlement, bien sûr, de chaque pays joue un rôle important puisqu'il traduit dans la réalité ses principes de subsidiarité. Et les pouvoirs décisionnels sont rapprochés autant que faire se peut des citoyens. En ratifiant la charte, tous les États membres se sont engagés à mettre en œuvre ces principes. Or, cette charte a un autre impact qui va au-delà des frontières du Conseil de l'Europe. C'est-à-dire que les États non membres sont de plus en plus intéressés à apprendre ce que cette charte signifie dans la pratique. Nous revenons tout juste d'une mission avec notre président de la commission du suivi au Bélarus. Et le Parlement national bélarus a organisé avec le CPLRE un atelier sur les principes de la charte et appelle à une coopération renforcée avec le CPLRE sur la question d'autonomie territoriale dans ce pays. Voilà encore un exemple dont on peut être fier par rapport à l'écho qui est donné aux traités, conventions et chartes du Conseil de l'Europe. Et l'objectif de développement durable des Nations Unies est aussi un autre sujet prioritaire que nous développons avec l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, avec le Comité des ministres du Conseil de l'Europe pour mettre en œuvre les ODD. Nous fêtons le 30e anniversaire de la charte. Pour autant, il y a un volet qu'il s'agit de ne pas oublier. Pas tous les pays ont ratifié toutes les dispositions de cette charte. Pour le concret, l'objectif ultime, c'est d'avoir 100% d'application de cette charte sur 100% du territoire du Conseil de l'Europe. Et nous saluons le fait que dans ce rapport-ci, l'Assemblée parlementaire donc souscrit à cet objectif d'appliquer à 100% les disposition de la charte sur tout le territoire du Conseil de l'Europe. Je vous demande d'assurer de très près le suivi de cet objectif 100% d'application de la charte. Alors, bien sûr, nous avons identifié un certain nombre de problématiques qui semblent se répéter dans la mise en œuvre de cette charte. D'abord, inadéquation des ressources financières, article 9, définition limitative dans l'exercice des compétences au niveau local. Troisièmement, absence de consultation utile. Et quatrièmement, absence d'applicabilité dans les tribunaux. Donc la consultation, c'est évidemment un domaine difficile, problématique. Nous savons que les pays essayent d'améliorer la situation et nous appelons nos voeux le rapport qui va être adopté enfin en octobre à Strasbourg pour encourager les gouvernements et parlements nationaux à engager un dialogue utile et porteur. Nous avons adopté des directives de consultation nous-mêmes au niveau du Congrès. Et dans votre projet de résolution, vous parlez de ces lignes directrices et nous vous encourageons donc à suivre ces consignes de consultation dans vos commissions et sous-commissions. Je regarde vers l'avenir. Nous allons poursuivre la promotion de l'autonomie locale et régionale. Nous continuerons à nous opposer au gouvernement qui tente d'user d'arguments économiques pour recentraliser donc les compétences, étant donné que les budgets nationaux se vident. Nous voulons continuer à promouvoir le droit des autorités territoriales à être informées, consultées par les gouvernements et gouvernements nationaux. Afin de réussir dans nos activités, nous autres, pouvoirs territoriaux, avons besoin de votre appui au niveau de votre Parlement national ainsi que de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. Nous savons qu'il y a donc des menaces à notre devoir de rendre compte et c'est pour cela qu'il faut joindre nos efforts tant au niveau des parlements nationaux et gouvernements nationaux et des pouvoirs territoriaux. Nous saluons le rapport de M. Leite Ramos qui adopte une posture robuste par rapport à la décentralisation et la garantie de la démocratie. Voilà. Nous avons voulu assurer que les trois branches exécutives du Conseil de l'Europe sont représentées pour avoir un éclairage sous tous les angles. Et je pense qu'il s'agit de maintenir cette complémentarité à l'avenir. Nous allons poursuivre donc cette coopération thématique et politique avec l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, car somme toute, les autorités territoriales sont responsables de nombreux domaines qui touchent la vie quotidienne des personnes. En novembre, il y aura un manuel sur la dimension locale des droits de l'homme. C'est un manuel pour les maires et délégués municipaux pour mettre en œuvre les principes démocratiques et de droits de l'homme du Conseil de l'Europe. Merci beaucoup.
Thank you, Mr.
Merci, Monsieur Kiefer. Merci également à tous les représentants officiels portugais qui ont vraiment beaucoup participé à nos différentes réunions. Et je remercie à nouveau Luis Leite Ramos, qui est quand même notre représentant de notre commission des questions sociales au Congrès. Et j'avais promis à M. Kiefer que nous allions nommer quelqu'un, une nouvelle personne. Et c'est un Helvète, M. Greur, Jean-Pierre Greur, qui emboîtera le pas et remplacera M. Luis Leite Ramos. Chers collègues, y a-t-il des questions qui brûlent vos lèvres à nos experts ou à notre rapporteur? Vous avez la parole.
In the UK, we...
Au Royaume-Uni, depuis un certain nombre d'années, nous décentralisons la planification. C'est bien sûr important pour les individus, puisque comme cela, ils maîtrisent les demandes de planification, de choses qui vont se faire dans leur village. Mais une des difficultés qui survient, c'est que nombre de ces personnes adorent ce système, ils adorent la décentralisation jusqu'à ce que la décision soit prise par un des conseils concernés qui est pris contre eux. Et après, ils font appel aux députés nationaux pour essayer de renverser ces décisions. Est-ce que vous avez une solution ou des suggestions de solutions pour surmonter ce problème ?
Thank you, Mr. Chair.
Merci, Président. D'abord, je souhaite remercier M. Leite Ramos pour son excellent rapport. Je suis chef du groupe parlementaire d'une région très peu peuplée de Finlande. Et nous essayons justement d'apporter plus de vie, enfin de revitaliser ces zones rurales dépeuplées. Des régions où nous avons 68, ça concerne 68% du territoire finlandais où seulement 5,7 millions de personnes vivent. Donc une énorme partie de notre territoire, 68% du territoire total de la Finlande où habitent très peu de gens. Voilà, nous pensons qu'il faut bien sûr qu'il y ait des institutions séparés, mais quand même, il faut aussi les équipements territoriaux. Donc, l'accessibilité est un énorme problème. Les réseaux de transport doivent être suffisamment bons pour assurer une telle accessibilité. Voilà, les gens doivent avoir la faculté de rentrer dans leur région d'origine. Et aussi, il faut que tout le monde soit d'accord. Si les gens sont contre les projets, Ça ne marchera pas. Donc il faut les services, il faut plus d'entreprises implantées. Et qu'on ait une bioéconomie pérenne. Donc je sais bien que lorsqu'il s'agit de prendre les décisions concrètes, il y a l'interdiction européenne d'aide d'État. Ça a été dans les pays nordiques, en Norvège ou ailleurs. Et il y a donc des subventions qui sont versées aux personnes qui rentrent dans les territoires les plus reculés du pays. Or, voilà, il y a des restrictions au niveau européen, notamment là-dessus. Donc je pense, et vous l'avez dans votre rapport, que la discrimination positive pourrait nous aider à avancer concrètement à réaliser cette autonomisation, décentralisation. En Autriche, on dit que lorsque les femmes partent des villages, le village va mourir plus ou moins rapidement. Or, si vous n'avez pas de bureau pour les femmes, pas d'offre pour que les femmes restent, qu'elles puissent vivre, s'éduquer, communiquer et autres, alors on ne peut pas freiner ce processus. L'argent, à lui tout seul, ne va pas suffire pour stopper le processus. Sergueï de Lvov a demandé la parole. C'est une ville tout à fait intéressante de l'Ukraine occidentale. Ensuite, M. Al-Maoui du Maroc a demandé la parole. Et M. Essel d'Autriche également. Et je vais demander aux membres au podium si vous souhaitez répondre aux deux premières questions maintenant. Nous, on va regrouper les questions. Sergueï. Merci, Monsieur le Président. Je dois vous corriger, c'est Lviv. Vous pouvez dire Lemberg, mais Lvov, non, pas Lvov. Je vous corrige donc. Réponse du Président hors micro. Je peux le dire en allemand alors. J'ai trois questions à nos invités, mais des questions que j'adresse à nous tous. La première que j'adresse à Monsieur Kiefer. En Europe, nous avons pu voir des exemples d'autorités centrales qui attaquent les chefs des communautés locales, surtout si ceux-ci ou celles-ci ont l'ambition, des ambitions nationales. Quelquefois, dans beaucoup de pays, le dispositif est très centralisé, Portugal par exemple, mais d'autres pays connaissent un système de gouvernement central où le gouvernement central a donc tout l'instrumentaire nécessaire pour réduire les possibilités des autorités territoriales. Alors, il ne s'agit pas de savoir qui a tort ou raison, mais voilà, le fait même que les autorités centrales abusent de ces pouvoirs, est-ce que vous pensez que vous, votre Congrès, pourrait jouer le rôle de gardien des droits des maires et conseils régionaux? Bon, ça peut ne pas avoir de résultats sur le comportement des autorités centrales, mais ça pourrait au moins donner de l'espoir et même consolider ceux qui voient que leurs droits sont bafoués et qu'on essaye de stopper et qu'ils doivent être encouragés à poursuivre cet effort. Bon, je n'étais pas présent lors des réunions précédentes de la Commission, mais le déséquilibre entre les ressources et les responsabilités pour cette décentralisation en Ukraine. Nous avons eu la décentralisation des ressources financières. Il y a maintenant 30 à 40% de moyens de plus vers les villes, mais elles n'ont pas les compétences. Donc il y a plus d'argent, mais il n'y a toujours pas les compétences en matière de santé publique et autres. Je fais un rapport sur la pollution atmosphérique et je vois déjà que 60% des gens vivent dans les villes, mais les villes n'ont pas les compétences en matière de réglementation, par exemple pour les véhicules au diesel. Voilà, c'est quand même quelque chose qui devrait revenir aux municipalités. Donc oui, elles peuvent avoir les ressources financières et autres, mais si elles n'ont pas les compétences de réglementation et de décision, c'est problématique. La question est donc, serait-il une idée d'avoir au niveau supranational, congrès ou autre organisation, de faire une liste, une sorte de livre blanc, une liste des compétences qui seraient inscrites donc dans un accord de Paris ou autre accord de mer qui permettrait donc aux autorités territoriales de jouer un rôle plus grand afin de gérer ces problèmes d'ampleur mondiale. Puisque voilà, au moins qu'ils aient donc un effet de levier sur les gouvernements et parlements nationaux pour céder ces compétences. Alors, il faudrait peut-être associer à ce rapport une déclaration car les parlements nationaux peuvent aussi, bien sûr, bien souvent jouer un rôle positif, mais ils peuvent également freiner les choses. Par exemple, lorsqu'il y a des élections municipales, ils peuvent freiner le passage aux urnes. Ça a été le cas à deux reprises en Ukraine. Notamment, un maire est décédé. Il y avait donc des disputes entre les différents groupes politiques. Ils sont en train de freiner les élections. Et le maire qui a été élu en intérim vient du parti qui était au pouvoir et donc bloque les élections municipales. Et il y a eu une réforme des unités. Les villages deviennent plus grands, reçoivent plus de ressources. Les élections sont freinées par le Parlement pour donc instituer ces nouveaux organes électoraux de ces municipalités réformées. Donc la commission associé au rapport pourrait, dans sa déclaration, ça peut aussi faire partie de la résolution, donc là où il n'y a pas eu d'élection encore, ne pas permettre qu'il y ait donc des atermoiements ou des empêchements d'élections municipales. Monsieur.
Merci, Monsieur le Président. La réussite du processus de décentralisation, bien sûr, avec un droit au développement et égalité des chances de tous les territoires, reste tributaire des moyens financiers et aussi humains dont dispose le pouvoir local ou régional. Et ceci de façon encore plus aiguë pour les collectivités pauvres et qui dépendent du degré de solidarité que joue l'État ou le pouvoir national dans la répartition donc des richesses. Et là, je ne voyais pas que le rôle c'est limité des parlementaires, même s'ils ont un rôle majeur dans la discussion et le vote des lois de finances chaque année, que le Parlement peut s'y apporter. Aussi, un deuxième point sur, m'intrigue un petit peu, c'est ces cumuls de mandats dans certains pays, dans d'autres, le cumul de mandats local et national. Quel impact positif ou négatif peut-il avoir sur le processus, à votre avis ?
Ok, und als letzter Herr Essel von Österreich.
Monsieur Essel, d'Autriche. Merci, Monsieur le Président. Lorsqu'on parle de décentralisation, évidemment, on parle également donc de l'aménagement territorial. Et c'est vrai que les règles sont en fait émises bien souvent par les citadins, que ce soit des règles générales ou les règles du marché. Voilà, c'est dans ces centres et agglomérations urbaines, c'est moins cher de produire, etc. Et donc, c'est vrai que les zones rurales ont besoin de soutien, y compris pour ce qui concerne la prise de décision. Donc, les besoins de la population rurale, si vous voulez les connaître, et si vous voulez les soutenir, il faut bien sûr qu'il y ait investissement pour les aider à arriver donc à prendre leurs décisions. Je remercie d'ailleurs le CPLRE et Andreas Kiefer ainsi que les autres pour tout ce qu'ils font dans ce sens. Je voudrais poser une question au secrétaire général donc au Portugal, au niveau national, il y a bien sûr des pouvoirs, mais y a-t-il aussi des pouvoirs décisionnels aux échelons inférieurs?
The podium.
Merci. Vous avez la parole pour donner la réplique, chers membres du panel. L'heure tourne, donc je vous demande d'être très succinct.
We have to adopt a preliminary.
Et sachez qu'il nous faut adopter le projet de résolution préliminaire paragraphe par paragraphe. Il nous faut également passer au point 6. Voilà. Soyez succincts dans vos réponses, messieurs.
And to the interpreters, excuse me.
Je présente mes excuses aux interprètes. Nous aurons un dépassement de 10 minutes.
Três questões que...
Trois questions qui m'interpellent. Premièrement, la planification du territoire. Au Portugal, il y a 42 ans, les choses étaient bien différentes, mais nous avons progressivement suivi un chemin qui a amené à ce qui suit. Toute la planification du territoire est faite par les mairies, donc par le pouvoir local, qui doit bien entendu respecter les directives nationales. Et le gouvernement n'intervient que lorsqu'il y a un hiatus, lorsque le plan d'aménagement approuvé par la collectivité territoriale est en désaccord avec une directive nationale. Pour ce qui est de la question de la ruralité et de la faible démographie dans ces zones rurales, c'est une question qui est commune à toute l'Europe et nous avons au Portugal ces problèmes-là également. Il y a grande asymétrie entre les territoires situés sur le littoral et tous les territoires de l'intérieur. Au Portugal, un débat est très de toute actualité, à savoir comment faire, comment créer une discrimination positive afin que les territoires de l'intérieur cessent de se dépeupler et attirent l'investissement. Et certaines mesures ont été prises, qu'il s'agisse de la réduction des péages sur les autoroutes qui conduisent vers l'intérieur ou alors des programmes spécifiques d'appui à l'économie qui sont plus généreux pour l'intérieur que pour le littoral. Donc ce débat est en cours et grâce à ce débat, nous essayons de définir la voie à suivre. La question de la limitation des mandats est une règle au Portugal depuis quelque temps. J'ai toujours été élue locale. J'ai 60 ans et je suis donc élue locale depuis 30 ans. Et j'ai toujours été d'accord avec l'alimentation des mandats, notamment pour les collectivités territoriales. 3 mandats de 4 ans, donc un total de 12 ans. Cela permet d'apporter de nouvelles idées, un nouveau souffle, de nouvelles personnes. Enfin, au Portugal, nous n'avons que 2 niveaux de décision, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de région à proprement parler, quoi qu'elle soit prévue dans la Constitution de la République. Il y a quelques années, nous avons consulté la population par référendum et la population a rejeté la régionalisation. Donc, nous avons le niveau central, gouvernemental, et puis les collectivités territoriales. Et entre deux, des institutions qui représentent le gouvernement, mais qui ne sont pas élues démocratiquement. Donc, c'est une étape que le Portugal doit encore franchir, et j'espère qu'il pourra le faire aussi vite que possible, car, à mon avis, la région, soit l'échelon intermédiaire, est indispensable pour combattre les asymétries, l'intériorité et les caractéristiques de chaque région, en particulier. Merci. Merci. Monsieur Kiefer. Merci beaucoup. Monsieur Howell, je crois que la création des capacités d'une part, c'est-à-dire des autorités locales gouvernées par des politiciens, les gouvernements locaux, doit être capable d'exécuter leur mandat également en tant que politicien, soit rendre des comptes, voilà, qui appelle le courage. C'est donc de plus en plus difficile d'obtenir des gens qu'ils aient un esprit de mission puisqu'ils sont constamment attaqués et sous le feu de la critique. Donc, prendre décision et être responsable de ce que l'on fait est une attitude qui est absolument nécessaire et ne pas dire que lorsque la chose résulte, c'est ma décision et si elle va à l'échec, c'est la décision d'un autre. Et c'est un problème qui ne se pose pas seulement au niveau local. Nous l'avons vu en Géorgie où le processus de décentralisation est en cours. Les maires sont désormais élus directement. Le ministre m'a dit, c'est incroyable. Avant les élections directes, on demandait toujours au gouvernement que les maires venaient nous demander que voulez-vous que nous fassions. Et maintenant, ils nous disent, mais ces concitoyens veulent que l'on fasse ceci ou cela. Donc, il y a une sorte de changement d'identité qui fait appel à une formation. Monsieur Calamaz, les zones rurales sont au cœur du travail du Congrès. Nous avons récemment rédigé un rapport qui porte sur les défis dans les zones rurales, l'éducation, la santé, les accès et les possibilités de décentralisation ou de sous-traitance de personnel qualifié. Par exemple, dans le district où vit Monsieur Hessel, il y a eu une décentralisation du service pour tout ce qui est des amendes routières. Elles sont traitées dans un lieu éloigné de cette région. Donc ça, c'est une option que peuvent prendre les gouvernements régionaux, les autorités régionales. C'est un exemple et je vous inviterai à consulter ce rapport de notre congrès. Monsieur Kirai, l'Ukraine connaît également un processus de cette socialisation qui avance et connaît certains reculs, mais en général, des progrès sont engrangés. Les séminaires, je participerai à un séminaire sur la décentralisation dans 2 semaines et nous essayons de donner les bons exemples que vous avez mentionnés. Comment encourager les maires, les élus locaux à fonder leur activité sur de bonnes normes européennes. Une source, bien sûr, c'est le rapport de suivi du Congrès. Une autre source serait le cadre de référence pour la démocratie régionale. personnel qui concerne surtout l'échelon régional. C'est une sorte de menu dans l'école, les États membres, mais les intervenants régionaux et locaux peuvent puiser ce qui les intéresse. Et il y a également des réseaux internationaux de municipalités qui sont des groupes de pression où le Congrès a un rôle institutionnel. Nous avons un mandat qui est d'assurer le suivi de la charte et des recommandations, mais nous ne pouvons pas, nous, même exercer des pressions à cette fin. En français.
Nous envisageons aussi une coopération avec le Maroc, l'association des villes, à partir du mois de novembre. Ça veut dire que le Congrès va suivre l'exemple de l'Assemblée parlementaire. Nous allons accueillir une délégation des élus marocaines en tant que partenaire pour la démocratie locale. Et avec l'expérience que a le Congrès, nous essayons de soutenir aussi ce processus de décentralisation, de donner des pouvoirs et des responsabilités, aussi des responsabilités financières aux municipalités au niveau local au Maroc. Et nous sommes très heureux d'avoir maintenant la possibilité d'établir cette coopération aussi dans la réalité après les signatures. Merci, Monsieur le Président.
Thank you very much. Do you want to make two cents?
Merci beaucoup. Voudriez-vous faire des remarques de conclusion? Merci beaucoup. J'aimerais tout d'abord remercier la contribution de Monsieur le secrétaire d'État du pouvoir local, du secrétaire général du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux, et également le concours de tous ceux qui ont pris la parole pour poser des questions ou avancer des suggestions. Tout d'abord, une observation sur le rôle des parlements. Pour ma part, j'estime que le Parlement qui approuve le budget annuel, qui approuve les lois de la décentralisation, ne saurait avoir un rôle secondaire dans tout ce processus. Mais plus qu'approuver les lois et le budget, le Parlement a le droit et le devoir, dans tous les systèmes et dans tout le pays, d'assurer le suivi des processus de cette nature. Et je crois que jusqu'à maintenant, ce rôle de suivi, d'évaluation, d'accompagnement de façon générale de processus aussi délicats et complexes n'a pas été réalisé, exception faite de certains pays qui ont de bons systèmes de cet ordre. À mon avis, le rôle du Parlement doit être renforcé. Nous nous heurtons à une difficulté très grande. Nous avons des systèmes politiques et des encadrements constitutionnels qui sont très divers et on a posé ici une question par rapport à un système électoral, à un système politique, celui de l'Ukraine. Mais au Portugal et dans d'autres pays, nous avons des systèmes un peu différents et cette question ne se pose pas puisque les réalités sont différentes. Mais je pense que vouloir aller plus loin jusqu'à introduire une déclaration est quelque chose à prendre en compte. Mais comme le disait le secrétaire général, au Conseil de l'Europe, nous avons un ensemble d'outils, d'instruments que nous pouvons appliquer. Et nombre de pays ne le font pas. Je pense au protocole additionnel par rapport à la charte de l'autonomie locale. Je vous rappelle également l'existence d'autres instruments dans d'autres contextes qui ne sont pas mis en œuvre. Donc l'une des façons d'aller un peu plus loin, c'est dans chacun de nos pays faire en sorte qu'il y ait un meilleur engagement, un plus fort engagement par rapport à la démocratie locale, par rapport aux enjeux politiques, sociaux, économiques des communautés locales. Et peut-être que nous résoudrons ainsi beaucoup des difficultés qui ont été évoquées. Donc le grand enjeu, c'est de poursuivre le travail et après que le rapport aura été éventuellement adopté, après débat, pour aboutir à une démocratie de plus de qualité qui promeut davantage les droits dans tous les domaines sociaux, économiques, politiques et autres. Merci.
Obrigado, Luis. Thank you.
Merci, Luis. Merci beaucoup. Mes chers collègues, Nous en venons au moment de voter la résolution sur le rôle des parlements nationaux pour assurer les succès des processus de décentralisation. Paragraphe 1. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions? Sinon, il est adopté à l'unanimité. Paragraphe 2. Adopté à l'unanimité. Paragraphe 3. Encore une fois, il y a des abstentions, votes contre. Non, adopté à l'unanimité. Le 4 aussi. Le 5, non, adopté à l'unanimité. Paragraphe 6, abstention, vote contre, adopté à l'unanimité. 7-1. Cet 1 est adopté à l'unanimité, donc enfin, on ne peut pas, cela n'a pas lieu d'être, mais 7-1-1 l'est. 7-1-1-2. Je regarde autour de moi, personne ne se manifeste, donc adopté à l'unanimité. 7-1-3. Oui, puis-je déclarer qu'il est adopté à l'unanimité? Oui, 7-1-5. Je me tourne vers vous. Là encore, adopté à l'unanimité. 7-1-5. 7-2. Ce n'est qu'un titre. Donc, je peux déclarer qu'il est adopté à l'unanimité. Monsieur Kiral, j'aimerais revenir en arrière. 7-1-5. Je voudrais rebondir sur le conseil que nous a donné Monsieur Ramos. J'ai parlé du rôle des parlements qui peut être positif et parfois négatif dans beaucoup de nos États. Le Président, pourriez-vous faire votre remarque sous forme écrite et nous la remettre en octobre lors de la réunion de la Commission? Oui. Mais j'allais vous suggérer quelque chose de très simple. Alors, dites-moi, quelle est cette phrase? Peut-être pourrions-nous ajouter un nouveau paragraphe. Lorsque cela est applicable, les parlements devraient jouer son rôle avec diligence en décrétant la tenue d'élections locales en temps utile. Un instant, dit le Président, je me tourne vers le secrétariat. Veuillez répéter. Lorsque la chose est applicable, c'est-à-dire tous les parlements de nos pays votent au sujet des élections locales, lorsque c'est applicable, le Parlement devrait jouer avec diligence le rôle qui est le sien pour désigner la tenue ou décider de la tenue d'élections locales en temps utile. Quelle est l'opinion du rapporteur? Je n'ai pas d'opinion en ce moment sur la contribution que vous venez d'apporter. Nous parlons de décentralisation toutefois. Nous ne parlons pas du rôle du Parlement lors des différents processus électoraux. Ma question est donc, cet amendement pourra peut-être susciter un conflit car chaque Parlement doit assumer les responsabilités qui sont les siennes et qui découle de la Constitution et des lois, et qui découle de ces lois et de ces constitutions. Et donc, nous ne pouvons pas dire au Parlement qu'ils doivent être diligents pour respecter leurs devoirs au vu de la Constitution. Si c'est ce que vous souhaitez, je pense qu'il nous faudra davantage de temps pour en débattre, et surtout pour savoir quelle est l'efficacité d'une recommandation de cet ordre-là. En tant que président Vatican, je partage la pensée de Louis. Je viens d'un pays où il y a décentralisation et fédéralisation et nous ne pouvons pas dénaturer l'esprit de cette résolution. Et donc, ce n'est pas le Parlement n'est pas responsable des élections qui se tiennent dans un petit village. Chacun est autonome, chacun est responsable de soi. Et ne le demandez pas, je vous prie, faute de quoi je devrais me tourner vers mes collègues en les priant de s'opposer à votre proposition d'amendement, car je vais précisément dans le sens de ce qu'a dit Luis Ramos. Oui, je suis d'accord pour que nous placions la chose dans son contexte avec Monsieur Ramos afin d'aboutir à un compromis. Il y a une raison à ce que je dis. Je ne suis peut-être pas d'accord avec tous les arguments qui ont été avancés, peut-être, mais je suis d'accord pour dire qu'il nous faut davantage de temps pour en débattre et je suis prêt à le faire. Le président, oui, j'ai bien compris que en Ukraine, en ce moment, un processus est en cours et nous ne pouvons pas traiter de ce cas dans notre résolution. Donc, si vous en êtes d'accord, je poursuis mon travail. J'en étais à 7.2 et donc il n'y avait pas d'abstention ni d'opposition, donc 7.2.1 adopté à l'unanimité, 7.2.2 pas d'abstention, pas d'opposition, 7.2.3 la même chose, il est adopté à l'unanimité, 7.2.4 pas d'abstention, pas d'opposition, 7.2.5 la même chose, 7.3 7.3 adopté, 7.4 7.4.1 adopté, 7.4.2 merci, 7.4.3 adopté à l'unanimité, 7.4.4 à l'unanimité, 7.4.5 personne ne s'y oppose, pas d'abstention, et enfin le paragraphe 8. Pour conclure, pas d'abstention, pas d'opposition. Et donc, mes chers collègues, maintenant, je vous demande de voter pour l'ensemble de ce texte. Qui est en faveur de ce texte? Je vous demande de le montrer. Qui s'y oppose? Y a-t-il des abstentions? Donc, je vous félicite. Votre rapport a été adopté à l'unanimité. J'aimerais également que vous preniez connaissance de l'exposé des motifs qui est très intéressant. Et maintenant, ce rapport est adopté. Merci. Et le jeudi, après lors de la séance de l'après-midi, je vous inviterai donc à prendre la parole et à débattre de ce rapport avec Louis. Maintenant, il nous reste 15 à 20 minutes. Et Madame Reina de Puyn-Weissmann devra nous quitter. Donc, nous passons au point de l'ordre du jour qui la concerne. Madame, êtes-vous prête? Je vous donne également immédiatement la parole. Le protocole additionnel sur la convention sur les droits de l'homme et la biomédecine porte également sur cette question. Donc, ce protocole additionnel est en cours et tous les parlements sont invités à le ratifier. Donc, je vous donne la parole, madame. Et nous avons également un invité de marque du Portugal, c'est monsieur Xavier. Monsieur Xavier, veuillez nous rejoindre. Monsieur Miguel Xavier est professeur de psychiatrie et directeur du programme de santé mentale auprès du ministère de la Santé du Portugal. Je vous souhaite la bienvenue et je vous remercie de votre participation. Madame, s'il vous plaît, veuillez prendre la parole. Merci. Excusez-moi de vous presser quelque peu, mais je dois moi aussi prendre mon avion immédiatement après le déjeuner. En ce moment, parmi les instruments du Conseil de l'Europe, notre Assemblée s'est opposée au protocole additionnel que vous avez mentionné. Le DH Bio a décidé d'envoyer ce projet à certains comités, commissions importantes du Conseil de l'Europe, à certains organes. Je l'ai dit dans mes commentaires préliminaires. Maintenant, nous avons une nouvelle possibilité de commenter ce protocole tel que révisé, ce projet de protocole, et j'invite à la déclassification qui permettra à d'autres parties prenantes, notamment les ONG, les Nations Unies et d'autres associations de personnes souffrant de handicaps psychosociaux de l'analyser. Toutefois, les changements qui ont été faits sont très minces et vont dans la mauvaise direction. J'y reviendrai. Depuis, étant donné que ces changements sont peu nombreux, les commentaires faits auparavant par l'ancienne présidente, Madame Stella Krekides, sont tout à fait applicables aujourd'hui et je ne vois pas qu'il convienne de les répéter. En 2017, cette commission a justifié la soumission du protocole comme ceci. En dépit de l'opposition fondamentale de l'Assemblée à ce protocole, il est important que l'Assemblée suive les travaux en ce qui concerne le contexte afin de minimiser les effets négatifs de ce protocole additionnel sur les personnes ayant un handicap psychosocial ainsi que sur la crédibilité du Conseil de l'Europe en tant qu'organisation des droits humains régionales et sur les procédures permettant d'assurer que la participation des organisations de défense de ces personnes ait lieu dans la rédaction de ce protocole. Et ces remarques sont tout aussi vraies aujourd'hui. Donc, j'ai concentré mes projets de commentaires sur l'explication de l'opposition de l'Assemblée à ce projet de protocole, qu'il s'agit de la procédure ou du contenu. J'en commencerai par la procédure. Tout d'abord, la procédure par le DHBO n'a pas respecté les clauses nécessaires pour ce qui est de la consultation des organisations des personnes porteuses de handicap. On a invité ces organisations que deux fois en juin et en novembre 2017 lors de leur réunion et à leurs propres frais. Le 14 mai 2018, le Forum des personnes porteuses de handicap a envoyé une lettre au secrétaire général du Conseil de l'Europe pour faire état de leur grande préoccupation et de leur opposition à ce protocole à la Convention d'Oviedo et a annoncé qu'ils ne participeraient pas aux réunions du DHBO en mai 2018 car leur apport, leur concours a été systématiquement systématiquement ignorés. Ils sont très inquiets de voir que les organisations représentant les personnes porteuses de handicap n'ont pas été consultées. La nature du travail de DHBio a été également critiquée par les principaux mécanismes de Nations Unies concernés. La bonne foi, la transparence, le respect, le dialogue, la sincérité pour aboutir au consensus qui sont les pierres angulaires de la CRPD et de tout ce processus n'ont pas été respectées par le DHBio. Et j'en viens maintenant au contenu. Le projet de protocole additionnel n'atteint pas ses buts. Il ne protégera pas les personnes ayant un handicap psychosocial des transgressions des droits humains et ne réduira pas le nombre de mesures involontaires. Au contraire, il risque de les augmenter en réglementant ce qui devrait être une exception. Il risque également d'affaiblir la protection actuelle en utilisant des termes incorrects et imprécis et des définitions qui le sont tout autant. Dans les commentaires de 2017, Madame Kyriakides, Stella, a donné pléthore d'exemples des périls de cette rédaction. Mais ce n'était pas la première personne à le faire. Plusieurs organismes de défense des droits humains ont également mis en évidence les problèmes que posent les termes et les définitions. Et aucune de ces préoccupations n'a trouvé d'écho dans la version révisée du protocole. En contraire, l'addition du chapitre 6 qui porte sur des situations particulières comme l'isolement et le confinement et les effets irréversibles ne font que l'empirer. Donc l'article 17 sur l'isolement et la contrainte ne suit pas l'article 16 qui concerne la contestation de ces mesures lors de traitements involontaires. En d'autres termes, un patient n'a pas la possibilité d'intervenir devant un tribunal pour contester ces mesures. Pourquoi n'y a-t-il pas de contestation possible? Le mémorandum ne l'explique pas. Dans ce exposé des motifs qui n'est pas contraignant, conformément aux règles du Conseil de l'Europe, c'était une nouveauté pour moi. Et cela implique que l'isolement ou la contrainte ne doit jamais être utilisé en tant que punition ou pour la faciliter le travail du personnel ou en cas de manque de personnel. Et pour ce qui est des effets irréversibles, cet article assure encore une moindre protection. Les effets irréversibles, tout traitement avec des effets irréversibles qui ne sont pas physiques et ainsi que tout traitement qui a des effets irréversibles secondaires, puisqu'ils ne sont pas le but de traitement, cela n'est pas acceptable du fait de l'imprécision du langage. Et cela pourrait être interprété pour impliquer toute une série de troubles mentaux, comme par exemple la dysfonction sexuelle. Le DHBio reconnaît que les mesures involontaires dans cette situation ne seraient jamais adéquates. Néanmoins, le DHBio n'a pas encore intégré ce texte dans le projet de protocole révisé et il n'est que dans le mémorandum, l'exposé des motifs. Donc, je ne comprends pas pourquoi le DHBio utilise des termes et des définitions, bien que tous les mécanismes de défense des droits humains s'y opposent, comme par exemple le mot « trouble mentaux » plutôt que « handicap psychosocial » ou alors la définition d'une mesure comme étant involontaire seulement lorsque la personne s'y oppose, plutôt que de définir cette mesure comme étant involontaire, comme il s'agit de l'absence de consentement éclairé. L'opposition contre ce protocole additionnel va plus loin lorsqu'il s'agit de ce qui se trouve dans le mémorandum où donc la commission a recommandé de placer dans le préambule de ce protocole que les mesures involontaires sont exceptionnelles et qu'elles ne sont utilisées qu'en dernier recours. Voilà qui se trouve maintenant dans le préambule de ce projet de protocole. Mais ça ne le rend pas plus acceptable, car le protocole ne fournit pas de détails, de normes ou de lignes directrices sur les solutions de rechange à ces mesures. Là, pourquoi devons-nous nous opposer à ce protocole? Le but de ce protocole, qui devrait être une norme pour protéger les personnes ayant un handicap psychosocial, existe déjà, notamment dans la Convention sur le droit des personnes porteuses de handicap. Et ce protocole ne fait que affaiblir ses défenses et risque d'ouvrir un conflit avec des normes internationales et l'érosion des droits humains qui correspondraient. Je conclus donc, en fonction de cette version actuelle soumise à la Commission pour commentaire, il n'y a aucune raison pour changer l'évaluation de l'Assemblée telle qu'elle a été rendue en 2017, à savoir que la rédaction de ce projet de protocole devrait être interrompue et que le DHBO devrait s'attacher à promouvoir des mesures alternatives aux mesures involontaires volontaire en psychiatrie. Merci.
Voilà. Vous avez entendu ce que la commission propose. Monsieur Xavier Miguel, qu'est-ce que vous pouvez-vous nous expliquer? Merci pour cette invitation. Je serai extrêmement succinct car je sais que, au moins pour une partie d'entre vous, vous avez la faim au ventre. Donc, lorsque le ministre de la Santé m'a convié ici, c'était pour deux raisons. D'abord parce que je dirige le programme national pour la santé mentale au Portugal, et la seconde raison, probablement plus importante, le Portugal a pris position contre ce protocole il y a quelques mois. Et c'est bien pour cela que je suis ici ce matin. Je voudrais planter le décor du Portugal. Donc je vais vous montrer une présentation rapide, mettre en exergue certaines questions. Et ce n'est pas un problème portugais. C'est un problème, autant que je sache, que connaît chaque pays d'Europe. Donc voilà. Je voudrais dresser donc un rapide aperçu de la santé mentale au Portugal. Il y a deux législations particulières pour la santé mentale. D'abord les questions plus générales et la seconde pour les structures et infrastructures. Et après il y a les autres législations habituelles que vous avez chez vous, le code civil, le code pénal et les conventions internationales et le rôle donc...
The mental health legislation has two parts.
Le CRPD. Voilà, nous avons donc depuis 20 ans une législation qui régit donc les admissions et deuxièmement donc la conception donc communautaire de comment est-ce qu'on appréhende la santé mentale. C'est donc il y a 20 ans que nous avons initié cette législation. Maintenant que nous sommes en train de relancer le plan national de santé mentale, que nous sommes en train de revoir et probablement modifier cette législation. Voilà, et donc l'admission d'urgence au Portugal. D'abord, nous évaluons en salle d'urgence, après un psychiatre est là, il envoie un email au tribunal, le tribunal notifie, confirme donc l'admission de la personne. Deuxième bilan psychiatrique fait par un second psychiatre et décision finale. En gros, voilà comment cela se présente dans la plupart des pays pour l'admission, les placements. Alors, les droits des patients, vous avez donc les clauses habituelles. Maintenant, comment est-ce que l'on a géré ceci au Portugal pendant ces 20 dernières années? Eh bien, je dirais plutôt pas mal. Le système est pleinement mis en œuvre. le taux donc d'admission obligatoire, involontaire, c'est 10% à peu près. Quelques difficultés au début de la mise en œuvre de cette législation, mais pas beaucoup. Mais maintenant, le problème est là. Voilà, il y a quelques années, eu une contestation lorsqu'il y a eu donc la ratification du CRPD. Hein. Parce que vous savez, l'article 14, donc la Convention des Nations Unies aux droits des personnes handicapées, eh bien, est contraire à notre loi nationale, et c'est la même chose dans la plupart des pays. L'article 14, c'est une contradiction centrale, et si je devais choisir une seule planche, ce serait celle-ci. Donc, notre législation régissant la santé mentale et l'article 14, c'est la contradiction, donc l'interdiction de privation de liberté sur la base donc d'handicap. Donc vous avez la loi régissant la santé mentale qui réglemente les placements involontaires et d'autre part la ratification de cette Convention des Nations Unies sur le droit des personnes handicapées et son article 14. Nous savons qu'il va falloir amender notre législation nationale sur la santé mentale. Autrement, il y aura un hiatus, une contradiction dans la législation nationale. Et je sais que ce n'est pas uniquement un problème du Portugal, c'est un problème dans tous les pays. Par exemple, voilà, ici, il y a deux études tout à fait intéressantes. George Smackler est un psychiatre qui travaille au Royaume-Uni. C'est quelqu'un qui est connu, il travaille dans les domaines de psychiatrie communautaire, il connaît parfaitement tout le dossier sur les droits humains des personnes handicapées, et voilà, il a déjà souligné ces problèmes de contradiction entre la Convention des Nations Unies et la législation britannique. Voilà. Donc, à nouveau, toujours la contradiction entre ces deux sources de loi. Voilà, maintenant, il y a un enjeu encore plus important. Voilà, si je fais une synthèse, à gauche, vous avez donc les parties prenantes les plus importantes. La population, les professionnels et les législateurs. D'autre part, vous avez les législations régissant la santé mentale du pays, la Convention sur les droits des personnes handicapées et le protocole additionnel d'Oviedo. Donc, si on avait déjà un problème entre la loi nationale et la Convention, et maintenant, entre la Convention internationale et le protocole additionnel d'Oviedo. Je n'ai pas peur de le dire, autant que je sache. Et je serais intéressée de vous entendre pour voir si ça a vraiment changé chez vous. Autant que je sache, tous les pays de l'Union européenne ont en fait une réglementation de ces placements involontaires. Or, je n'ai pas eu vent d'aucun amendement ces dernières années, donc d'inclure les clauses donc concernant les internements involontaires et la législation nationale du pays. Voilà, vous avez donc quand même beaucoup, beaucoup d'incertitudes maintenant dans les États membres. Comment dissiper le conflit donc entre le protocole additionnel d'Oviedo, la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées et le droit national? Bon, il y a eu un livre vert en 2005, nous pensons que ce nouveau protocole additionnel, bon, les mesures articles, donc un seul article, nous pensons que comparer la version de 2015, il y a trois articles, mais les principes sont tout à fait les mêmes. nous ne voyons pas de mesure pour impliquer ce qui est à nos yeux plus important, impliquer les patients et leurs familles dans la légifération. Alors, nous commençons au Portugal, donc commencer à changer les choses. Nous invitons les organisations représentant les patients et leurs familles et nous discutons des propositions de manière systématique avec eux. C'est pour cela que le Portugal a opposé son veto à ces protocoles. Ou plutôt a pris position contre, pas parce que nous ne sommes pas en faveur des droits humains des personnes handicapées, mais parce que nous pensons qu'il y a donc un grave hiatus entre ces différents textes. Merci. Merci, Monsieur Xavier. Vous avez été très clair dans vos propos et vous avez donc souligné ce qu'a dit... Le rapporteur, est-ce que vous avez des questions, Stella?
No? Yes. First of all, I want to...
Eh bien, tout d'abord, je souhaite remercier Reina de Brunswick pour sa présentation d'excellente facture, et vous, Monsieur Xavier, pour votre position très limpide sur la situation du Portugal. C'est vrai que nous avons essayé de formuler nos inquiétudes ces deux, trois dernières années au sujet de cet avant-projet de protocole additionnel. Et je crois comprendre que, voilà, ça ne sauvegarde pas les droits des personnes avec des handicaps socio-psychiques, mais qu'il y aura encore plus de discrimination. Et donc, ils seront encore plus à risque. Donc, nous voulons les protéger, les personnes avec des handicaps sociaux.
I think this is the wrong way to go around.
Les handicaps psychosociaux. Mais voilà, aucun de nos arguments n'a été pris en compte. Reina l'a dit, nous avons avancé un document très bien rédigé et depuis, rien n'a été fait. Nous n'avons pas été entendus. Je voudrais savoir où nous en sommes maintenant. Nous devons comprendre quelle est la phase suivante, l'étape suivante. Si nous pensons que ce protocole additionnel est... vicié fondamentalement et qu'il viole les droits des personnes à handicap psychosocial, comment est-ce qu'on va pouvoir dire encore plus concrètement notre avis? Voilà, car j'ai cru comprendre que ce que vous avez dit couvre complètement ce qu'a dit la collègue Brune Wesman et aucune de nos considérations n'ont été incluses dans le projet révisé de protocole additionnel. Reina a fait la proposition de soumettre cet avant-projet de commentaire sur le projet révisé de protocole additionnel avant la révision. Donc, pour que, j'espère que vous êtes tous d'accord qu'on puisse rendre public, déclasser donc ceci. Tania, je vous demande de répondre à Stella. Quelle est l'étape suivante? C'est une question politique. Donc, Stella, Dorine plutôt. Merci. La technologie ne suit pas apparemment. Alors, je suis d'accord. Tout à fait, c'est ce qu'a dit Reina et Stella. Et je souhaite comprendre quelle suite sera donnée, car il ne semble pas satisfaisant d'avoir ce genre d'interrogation et ne pas entendre de réponse. Je suis particulièrement inquiète au sujet des mineurs. Mineurs. ils ne sont pas inclus dans ce protocole additionnel et je ne comprends absolument pas pourquoi, car au Royaume-Uni, nous avons eu un cas, il ne serait-ce qu'il y a 2 semaines, projet de loi, un cas où donc il y a eu donc un mineur qui a été mis en détention involontaire et il a été donc interné dans une unité psychiatrique. Il est décédé, ce jeune. Donc il faut absolument qu'il n'y ait pas de flou hein, et qu'on sache ce qui va se passer. Non, les mineurs ne sont pas inclus dans le protocole additionnel. Je pourrais peut-être répondre sur ce que Stella a dit et aussi peut-être réagir à ce que M. Xavier nous a dit. Vous avez été vraiment très rapide dans cette esquisse de la situation. Vous avez raison, dans tous les États, on a eu une légalisation dans la législation nationale. Or, au niveau du DHBio, un des psychiatres m'a même accusé de mettre en danger avec donc les objections à ce projet de protocole. Voilà, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui essayent de changer, donc passer donc de cette approche droit de l'homme de la santé mentale, arriver donc à la légalisation. Il y a incompatibilité, comme vous l'avez dit, par rapport à la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées, CDPH. Alors, on a essayé quand même de faire en sorte que le DHBio donc suive les bonnes pratiques, bien en place, et donc par rapport à ce qui concerne les mesures involontaires. Ça prend des années pour opérer des changements. Et c'est ce que j'ai proposé à la Commission. Hormis mon rapport, il faudrait peut-être une motion pour élaborer un service de santé mentale qui soit meilleur. Nous avions attendu du DHBio qu'il le fasse, mais voilà, en l'absence d'action de leur part, c'est à nous peut-être de faire une motion. Monsieur Xavier a très très clairement expliqué où se situaient les tensions sur ce dossier. Voilà, c'est une suggestion que je soumets à la Commission. Dernière intervention, Stella. Nous avons un problème de temps. Je voudrais remercier M. Xavier à nouveau pour ce qu'il a souligné. Quand vous avez mis ceci à l'écran, c'est devenu encore plus limpide dans ma tête. Nous avons dans nos pays des législations nationales qui sont en porte-à-faux avec la Convention internationale. Alors, faudrait-il changer nos lois nationales pour suivre la Convention? Et ça va dans un sens opposé. C'est dangereux. Même au niveau national, nous nous trouvons dans une situation très délicate.
Just a final comment.
Un commentaire final. Si vous me demandez de faire la synthèse de tout ceci, c'est mon avis personnel et non pas officiel. En tant que professeur de psychiatrie et expert, je pense que le document est tout à fait parfaitement inutile pour 2 raisons. Toutes les questions qui concernent les droits sont déjà inscrits dans notre législation sur la santé mentale. Toutes les choses qui concernent les nouvelles approches sont absentes. Par conséquent, ce document est parfaitement inutile. C'est mon avis.
Please, you can... 1 minute, please.
1 minute. C'est promis. Je conviens avec vous que c'est inutile. Mais l'adopter, ce sera encore plus dangereux, puisque même quelque chose qui est utilisable peut aussi donner un faux signal. Voilà, donc C'était ce que je voulais dire sur ce protocole additionnel. Écoutez, merci pour ce débat, Reina. Vous allez peut-être... vous avez dit qu'il fallait réfléchir en commission, peut-être élaborer une motion. C'est une idée intéressante. Maintenant, j'ai pour fonction de vous remercier, vous et bien sûr, Monsieur Xavier, au nom de Madame Mendes, chef de délégation du Portugal à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, nous sommes invités au déjeuner. Le déjeuner est à l'intérieur du bâtiment, dans la salle, le réfectoire de l'ancien monastère. Je vous remercie pour ce débat et je remercie les interprètes qui nous ont accordé. Je vais réfléchir comment je vais pouvoir être gentil avec vous en retour demain.